Chaque soir jusqu'à minuit, profitez de la troisième mi-temps dans l'Afterfoot sur RMC avec Winamax. Débrief, analyse, commentaires à chaud. Retrouvez tous les conseils de nos consultants pour vos prochains paris sportifs.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
Marina Lorenzo.
Bienvenue à tous, salut, 17h-19h, l'intégrale foot sur RMC spéciale équipe de France aujourd'hui avant Italie-France, match de la Ligue des Nations bien sûr, c'est la tête du groupe qui se joue, pas mal de changements, de l'attente de spectacle, d'un renouveau dans cette équipe de France, on verra bien, on va en parler en tout cas, c'est plus celle avec moi, salut Seb.
Salut Marina, bonjour à tous.
Et puis coach Courbis également qui est avec nous, salut coach.
Salut les amis.
Salut, salut, salut coach, en direct de Montpellier, c'est ça, tout va bien?
Ben oui, tout va bien. Après une journée vraiment bien remplie.
Bien remplie, les 50 ans du club, on le rappelle. Tu es sur place pour cette raison, mais tu es avec nous. Et merci, coach, parce qu'on va parler de plein de choses. Est-ce que Didier Deschamps se remet en question? Il y a pas mal de changements. On va faire un premier bilan également de cette année 2024 pour les Bleus. Pas glorieux, bien sûr. Les joueurs qui vont jouer gros ce soir, on va se poser la question. Marcus Thuram, Christopher Nkunku. Et puis parler aussi, bien sûr, de cette Italie, le renouveau de la Squadra Azzurra. Et puis, on sera également en ligne avec un spécialiste de la Belgique qui traverse une crise profonde. On en parlera également avec lui tout à l'heure. Nos spécialistes équipe de France, Jeannot Séguier, Arthur Perrault, ils sont en Italie et ils seront avec nous dans un instant en direct. L'Intégral Foot, c'est parti. Avec donc cette première question qu'on se pose, est-ce qu'il se remet en question Didier Deschamps? C'est une grande question parce qu'on sait qu'il aime avoir ses certitudes, ses cadres et que parfois il faut aussi en changer, il est obligé parfois et puis parfois c'est des questions de choix. On va en parler tous ensemble avec Arthur Perrault aussi, notre spécialiste de l'équipe de France qui est en Italie. Salut Arthur, bienvenue.
Salut Marina, salut messieurs, bonsoir à
salut
tous.
Arthur.
Salut, salut.
Salut Arthur.
Mise en place hier à San Siro qui a réservé des petites surprises, dis-nous tout.
Surprise ou non, hein, parce que le sélectionneur avait quand même été assez clair en nous disant qu'il allait y avoir des changements sur cette deuxième rencontre face à l'Italie maintenant que l'équipe de France est qualifiée, même si les Bleus ont à cœur, et on va en reparler, de bien terminer l'année. Oui, un huis clos avec une mise en place effectuée par le sélectionneur Didier Deschamps, où on a pu voir Mike Maignan une nouvelle fois dans la cage. Là, il n'y a pas de surprise. La défense, Koundé à droite, Digne à gauche, la charnière composée de William Saliba et donc d'Ibrahima Konaté qui devrait récupérer le brassard de capitaine. Juste devant cette défense, deux hommes, Manu Koné et Adrien Rabiot. Et puis devant, dans ce 4-2-3-1, Coman à gauche, Olise à droite, Nkunku en numéro 10 et donc Marcus Thuram en position de numéro 9. Dans ce stade de San Siro qu'il connaît très très bien et qui sera plein à craquer ce soir. 68 000 spectateurs attendus ici à Milan.
Oui, ça déjà c'est la première bonne nouvelle, c'est qu'il y aura du monde, il y aura de l'ambiance, contrairement à ce qui s'est passé jeudi soir contre Israël. Ça c'est sûr. Bon, déjà c'est le premier point positif. On essaie de voir les choses de manière positive, non? C'est possible. Dans ces changements-là, en tout cas, il y en a qui sont imposés, mais il y en a qui donnent envie.
Ouais, on a envie de voir certains joueurs. Alors c'est vrai qu'on se répète souvent, mais sur cette Ligue des Nations, les matchs sont très rapprochés, donc il y a forcément aussi des considérations physiologiques, athlétiques à avoir au niveau des joueurs. Et puis comme l'a dit aussi Didier Deschamps, il a besoin de voir voir certains joueurs, d'avoir peut-être certaines certitudes, même si par rapport à la question qui est posée, j'ai du mal dans la même phrase à avoir Didier Deschamps et remise en question. Donc voilà, là on est sur un match où oui, potentiellement l'équipe de France peut reprendre la première place.
Oui.
Ce qui sera pas évident, mais il n'y a pas un enjeu incroyable. L'équipe de France est déjà qualifiée. Et moi, je pars du principe que dès l'instant où il y aura des matchs à vraiment un enjeu, on repassera avec une équipe plus à vocation défensive.
Ouais, t'es d'accord avec ça, coach Courbis?
Oui, en partie, oui. Mais bon, je vais pas chaque fois redire la même chose en ce qui concerne ce que je trouve complètement anormal, c'est qu'il n'y ait que trois petits jours entre les deux matchs de la coupure internationale, qui est quand même une coupure d'une quinzaine de jours. Et je reste persuadé que Didier, avant même les deux matchs, ben, a une certaine façon de réfléchir pour, disons, mettre en place des joueurs qui ne vont pas jouer plus de trois mi-temps. Et je ne pense pas du tout que l'équipe de ce soir est faite parce qu'il y a eu cette équipe très, très moyenne, pour ne pas être plus sévère, contre l'Israël, chez nous, en France. Donc là, oui. Maintenant, il y a le match retour. en Italie, avec le match aller qui nous a mis un gros coup de marteau sur la tête.
Perdu au Parc des Princes.
Est-ce qu'on va réussir à faire mieux? Oui, mais c'est pas seulement le nombre de joueurs que Didier change, que moi je pense qu'il faut que nous regardions, c'est aussi le changement de l'organisation.
Bien sûr.
Et après, oui. s'il y avait un autre match, voilà, s'il y avait un autre match trois jours après, ben à ce moment-là, ça serait un petit peu une réflexion sur les quatre mi-temps que nous avons vus. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur du groupe France qui joue plus de trois mi-temps dans les quatre mi-temps de ces deux matchs. Mais je vais voir, moi, avec beaucoup d'attention, ce 4-2-3-1 qui me paraît beaucoup plus intéressant que le 4-3-3, surtout quand dans le 4-3-3, il y a un garçon qui est talentueux, mais dans un poste de 6-8 qui s'appelle Zaïre Emery. Et Zaïre Emery, qui soit celui que l'on peut penser remplacer Griezmann, dont là, je pense qu'on est complètement hors sujet. Il vaut mieux qu'on réfléchisse à autre chose.
Sur la réflexion de Roland, elle est tout à fait logique et je suis plutôt d'accord avec lui. Après, je redis ce que je pense, c'est-à-dire que dans la remise en question, aujourd'hui, il manque des joueurs et pas n'importe lequel. Il manque Kylian Mbappé, même s'il n'est pas au meilleur de sa forme, ça reste notre attaquant numéro un, notre atout numéro un. A priori, il est décidé à l'installer quand même au poste d'avant-centre. Donc là, on en parlera après par rapport à Marcus Thuram.
Oui.
À voir si les deux pourraient jouer ensemble dans l'axe, ce que je pense pas avec en tout cas en équipe de France. Et je pense que là, même si moi je suis plutôt content de voir Nkunku dans une position de numéro 10, voire de deuxième attaquant, et je pense que ça pourrait aider sur ce match-là, Marcus Thuram.
On va en parler longuement tout à l'heure.
Je pense vraiment que sur les matchs à enjeu, alors là ça reste un match de gala, c'est l'Italie, on a perdu le match aller, il y a une petite chance de reprendre la première place, mais sur vraiment les matchs à enjeu, je pense qu'on reviendra toujours un milieu de terrain avec un troisième milieu de terrain plutôt à vocation défensive.
Donc pas de remise en question pour vous, juste quelque chose qui a été
besoin
planifié.
Besoin de voir des joueurs, il l'a dit, il a besoin de voir des joueurs, il a besoin de faire tourner comme l'a dit le coach aussi. Et là c'est l'occasion de voir Nkunku dans l'axe, dans une position où de temps en temps il rentre aussi avec Chelsea.
Ouais, parce qu'il en a entendu des critiques et puis bon, évidemment Arthur, on connaît le profil du coach, mais
excuse-moi de te couper, des critiques méritées.
Les critiques sont toujours méritées. Si elles arrivent, c'est sûr.
Des fois, elles sont sévères. Là, donc, il est critiqué parce qu'il était critiquable.
Ouais, bien sûr. Arthur, il en a parlé de ça aussi en conférence de presse. Forcément, vous, les journalistes, vous allez le chercher sur toutes ces questions.
Oui, évidemment, en conférence de presse de veille de match. Alors, la nature de ces critiques, évidemment, en s'appuyant sur le dernier match face à Israël. Alors, c'est presque un tout, finalement. C'est ce schéma tactique qui n'a pas fonctionné. Le 4-3-3, d'où la bascule ce soir vers ce 4-2-3-1. Je ne suis pas sûr comme Roland. Peut-être que c'était déjà quelque chose d'acté dans la tête du sélectionneur. Les autres choses qui sont revenues, le d'envie presque sur le terrain des joueurs, c'est quelque chose qui s'est ressenti, le manque de rythme, cette alternance de rythme, tout simplement on s'est presque ennuyé au Stade de France.
Oui, on peut enlever le tout cela.
Ouais, voilà, mais face à tout cela, évidemment qu'hier, dès qu'il arrivait en conférence de presse, le sélectionneur s'était préparé. Ça a été la première question posée par un de nos confrères. Est-ce que il a toujours confiance en son groupe? Est-ce qu'il est toujours solide face à ces critiques? La réponse du sélectionneur de l'équipe de France.
Non, j'ai mon énergie, je fais tout pour continuer à maintenir l'équipe de France au niveau où elle est arrivée, avec des exigences, une attente qui sont là. Après, les critiques, elles ont toujours fait partie de ma vie, les compliments aussi. Donc, c'est pas ça qui va influencer ce que j'ai à faire, ce que je pense faire pour que l'équipe de France soit la plus performante possible.
Bon, il a répondu à ça,
Oui, mais coach. on peut être d'accord ou pas d'accord. Et moi, en tant que passionné, je ne suis pas d'accord du tout. C'est-à-dire que déjà, il y a une question que je me serais vraiment fait plaisir de poser, c'est que...
Je la note, Roland.
Pardon ?
Arthur, la note.
Je la note pour ce soir. Je la note pour ce soir.
Ça n'a rien à voir avec le fait que vous avez vos questions et tout. Il peut y avoir un petit oubli. C'est plus facile pour moi, après, de rajouter quelque chose que de penser à tout. Je crois que l'ambition de l'équipe de France et l'objectif de l'équipe de France, c'est pas de ne pas participer. Hein, comme une grande personne a pu dire, le principal, c'est de participer. Non, c'est d'essayer de gagner un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde. Et la question, pour moi, que je me serais fait un plaisir de lui poser, j'ai dit, Didier, on n'est pas là pour être sévère, pour être pas sévère, pour être d'accord, pour pas être d'accord. Il y en a une et peut-être il y en a deux de questions. Est-ce que vous pensez un seul instant que l'équipe présentée en début de match contre l'Israël dans un contexte particulier avec 15 à 20 000 spectateurs dans notre stade de France où nous avons été champions du monde quand vous étiez joueur, est-ce qu'il y a une chance qu'on puisse être champion du monde? Donc cette équipe-là qui a démarré le match contre l'Israël avec notamment
un
Mbappé qui,
Il va te répondre que l'équipe est en construction, qu'il a besoin de temps, c'est pour ça qu'il veut voir du monde et que il le sait très bien.
Arthur, il faut pas oublier non plus ses bases. Je le dis depuis le début. Ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il a gagné avec l'équipe de France. Mais il a gagné d'une certaine manière avec des joueurs où il a inventé, on se rappelle de Matuidi à un poste qui n'était pas le sien. Et je pense que là-dessus, c'est pour ça que je ne dis pas à l'entraîneur, le coach est mieux placé que moi là-dessus, mais normalement, il doit toujours être, pas en remise en question, mais toujours en train de se questionner en tout cas.
Et gagner, ça donne des certitudes. Ouais,
et quelque part, aujourd'hui, bon, il a perdu des joueurs, notamment un joueur très important, Griezmann, et qu'il ne retrouvera pas, parce qu'on en a déjà parlé il y a deux ou trois semaines, on n'a plus ce profil-là. Et il cherche, mais je suis persuadé que lui, pour le coup, il ne se voit pas gagner une grande compétition avec quatre joueurs à vocation offensive.
Oui, mais d'accord,
mais
il peut aussi ne pas se voir gagner ça. On l'aide à réfléchir avec une équipe sans un Mbappé qui est pour moi l'un des trois meilleurs joueurs du monde. Pas en ce moment, pas depuis quelques mois, mais nous avons quand même eu ce plaisir pendant ces dernières années. Et ensuite, il y a une revue d'effectifs qui a été fait et que ce soir, ben, c'est les deux matchs, le troisième mi-temps et quatrième mi-temps, qui vont permettre à avoir une réflexion sur qu'est-ce qui se passerait de mieux après ces deux matchs et après ces quatre mi-temps. Est-ce que l'organisation pour le match prochain, ça sera un 4-3-3 ou un 4-2-3-1? Qui sera la charnière centrale? Qui sera le capitaine? Il y en a des questions à poser et à se poser. Mais moi, si j'en sélectionne une, je lui dirais, ça je l'ai déjà dit, est-ce que vous pensez pas, hein, parce que déjà rien que de dire est-ce que vous pensez pas plutôt que est-ce que vous pensez dans la question, c'est que déjà c'est une question réponse. Est-ce que vous pensez pas qu'on aurait pu faire un petit peu mieux, monsieur le sélectionneur?
Par hasard. Bon, il y a une chose qui est sûre en tout cas, c'est qu'on arrive, c'est le dernier match de l'année. L'année a été longue et la question de la fatigue, elle est là, elle est revenue en conférence de presse, hein, Arthur, Didier Deschamps en a parlé. C'est vrai que c'est une question importante.
Mental et psychologique, ouais. Et c'est vrai qu'on a mental et physique. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du physique. On parle un peu plus dans le staff de l'équipe de France du mental ces derniers jours. Alors, avec un écho peut-être indirectement à la situation de Kylian Mbappé, mais évidemment que les joueurs enchaînent énormément et Ibrahima Konaté, on a lui aussi parlé. C'est aussi pour ça sans doute qu'il y a des alternances et que l'équipe alignée ce soir va pour répondre à ce que disait Roland, permettre de confirmer certaines réponses que le sélectionneur pouvait déjà avoir. Et peut-être qu'on arrivera avec un peu plus de certitude sur le prochain rassemblement. Voilà, il y a sans doute des questions que Deschamps se pose encore ce soir, et le match face à l'Italie va l'aider. Je pense notamment à Christopher Nkunku, surtout à Manu Koné qui avait été très très bon face à la Belgique lors du dernier rassemblement, à Michael Olise. Voilà, c'est des joueurs qu'il veut revoir, qu'il va revoir ce soir, et vous allez en parler aussi dans quelques instants, mais Marcus Thuram, où on se pose toujours la question de pourquoi il n'est pas aussi performant en sélection qu'en club, et il sera très attendu ce soir.
Et Arthur, ce qu'on va, évidemment on est d'accord avec tout ce que tu nous dis là, et est-ce qu'on va aussi pas regarder avec beaucoup d'attention les 5 changements en cours de match, parce que ça aussi ça nous sera. On voit l'équipe qui démarre, l'organisation a été changée. Cette équipe-là est quand même beaucoup plus séduisante que l'autre contre l'Israël. Évidemment que c'est pas difficile d'être beaucoup plus séduisant. Et ensuite, on verra aussi les cinq joueurs qui vont remplacer les cinq autres joueurs. Donc après ces quatre mi-temps, on aura la possibilité de tout commenter avec précision, les compositions d'équipe, les changements en cours de match et les changements d'organisation.
Ouais, les vrais enseignements, ils seront après, voilà. Après ce match. On n'attend pas grand chose, a priori, ce que je t'entends. Avant d'accueillir Maxime, auditeur au 32-16, pour continuer de parler, bien sûr, de ce France-Italie, un petit détour par le rugby, parce qu'il y a un test match qui a commencé il y a 10 minutes. Roxane Lacusca, salut, c'est Pays de Galles-Australie.
Salut Marina, salut à tous. Oui, c'est parti depuis 8 minutes 30, très exactement, entre le Pays de Galles et l'Australie. 0-0, toujours les deux équipes qui s'affrontent pour la troisième fois cette année, puisque les Gallois s'étaient déplacés en Australie lors de la tournée d'été. Les Gallois restent sur deux défaites face aux Australiens, 25-16 et 36-28, à charge de revanche donc aujourd'hui. On joue depuis 8 minutes 40, toujours 0-0 entre les deux équipes.
Merci.
Il y a des points au moins dans ces matchs-là.
Pour l'instant, on ne se régale pas encore, coach.
Je veux dire, pas là, ce n'est pas des 0-0 comme France-Israël.
J'espère pas, en tout cas. Ce serait mauvais signe.
À tout à l'heure, Roxane, il y aura la finale également du Masters Tennis entre Yannick Sinner et Taylor Fritz à partir de 18h. C'est Eric Salio qui sera avec nous pour en parler. Allez, on revient au foot avec Maxime qui est avec nous au 32-16. Salut Maxime.
Salut, bonsoir tout le monde.
Salut Maxime.
Salut Maxime.
Bienvenue dans l'intégrale foot. Alors, toi Maxime, tu voulais revenir un peu sur les changements annoncés ce soir ?
Ouais, pourquoi pas. Après, les changements, il y en a qui sont intéressants, comme Nkunku, je trouve ça intéressant. Manu Koné, comme on a dit juste avant d'ailleurs, je trouve ça intéressant. Après, sincèrement, il faut être courageux quand même pour regarder l'équipe de France en ce moment. Il faut presque du courage, vraiment. Pourtant, je suis un vrai passionné de football. C'est méchant ce que je veux dire. Pourtant, d'habitude, je suis plus avec les entraîneurs. Mais là, moi, j'ai plus l'impression que même les joueurs, même eux s'ennuient finalement avec Didier Deschamps. Ça m'embête un peu de parler comme ça de lui parce que je suis pro-entraîneur d'habitude et manager. Le point fort que je trouvais de Didier Deschamps, c'était qu'il était un bon manager. Et ben maintenant, je ne pense même plus. Pour moi, c'est même plus un bon manager. C'est ça le problème.
Tu crois qu'il a fait son temps ? Il a fait son temps.
Mais ouais, pour moi, il fallait faire page blanche dès l'élimination contre la Suisse déjà. Bon, après, on ne peut pas y retirer. Il a été en finale quand même de Coupe du Monde. Mais pour moi, il fallait faire page blanche il y a un petit moment déjà. Zidane ou pas Zidane, hein, même un petit Roland Courbis, moi, ça me plairait bien. Hein. Non, j'exagère
laisse-moi
peut-être.
Laisse-moi tranquille.
Non, j'exagère peut-être. Mais ouais, là, je pense que il faudrait changer pas mal de choses parce que moi, quand je vois Kamavinga contre Israël, pour moi, c'est pas, il est pas nul d'un seul coup. Kamavinga, je pense qu'il peut être meilleur que ça, et je pense que ça, c'est avec un autre sélectionneur tout simplement qui peut être meilleur. Après, même pourquoi pas aller chercher des acliouges, des choses comme ça pour essayer de voir, puisque apparemment, il faut voir, on est en reconstruction apparemment. Et puis il y a aussi une chose, c'est qu'on surcote peut-être l'équipe de France en ce moment. On surcote parce qu'on croit qu'on est encore en 2018 et je pense que c'est possible qu'on est en retard par rapport à d'autres nations.
Maxime, on surcote peut-être par rapport au collectif, mais individuellement, on a toujours un effectif incroyable quand tu regardes les joueurs dans quel club ils jouent.
Je suis assez d'accord avec ça, mais il faut pas. Pour moi, on est quand même en retard sur quelques nations. On va pas les citer forcément, mais aussi individuellement, je suis d'accord. Mais l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne. Aujourd'hui, par exemple,
tu trouves quoi que le renouveau en gros est trop long à venir, quoi, que la passation de pouvoir, elle est trop timide. C'est quoi que tu reproches vraiment à Deschamps?
Il parle d'énergie en conférence de presse. Pour moi, il n'en a plus. D'ailleurs, ouais. Comment il parle, comment sa posture et comment il en parle déjà. Pour moi, il manque d'énergie. Il le prouve de lui-même. Et après, est-ce que il se fait entendre? Est-ce qu'il se fait respecter? Est-ce que c'était le manager d'avant? Je suis pas sûr parce que quand je vois les histoires avec Mbappé, quand je vois les histoires avec Griezmann, parce que franchement, on parle d'individualité, mais quand on a plus Giroud, on a plus Griezmann, on a plus Mbappé tout de suite. Bon, il va revenir, mais les individualités.
Après, Mbappé, ça restait des joueurs plutôt en fin de carrière.
Oui, mais capitaux en termes de charisme.
Et puis même l'histoire du capitana, on change de capitaine tous les deux minutes du coup parce qu'il n'y a pas Mbappé. Est-ce que Konaté, c'est un bon capitaine? Je ne sais pas. Il y a trop de points d'interrogation.
Il n'a pas trop le choix, je crois, ce soir.
Pourquoi pas Mac Maignan? Mais est-ce qu'il a trop de caractère? Est-ce qu'on ne sait pas comment ça se passe vraiment dans le vestiaire? Donc c'est dur de parler. Mais moi, individuellement, oui, il y a des qualités. Mais est-ce qu'on n'est pas en retard par rapport à d'autres? Et c'est même pas que individuel. Avant, par exemple, en finale de Coupe du Monde ou alors contre l'Argentine en 2018, individuellement, il y avait un Mbappé. Plus le Mbappé d'avant, donc individuellement il y avait Griezmann aussi.
Donc pour toi c'est qu'une question d'entraîneur du coup?
Non, on va pas exagérer la chose quand même parce que.
C'est une question parce que moi je pense que c'est ça, mais après.
Oui. Évidemment, ça c'est mon point de vue, mais total, non, je pense pas parce qu'ils ont une part de responsabilité les joueurs, ça c'est sûr. Mais pour moi. Sincèrement, il faut changer, il faut faire page blanche. Et s'il faut être en reconstruction, ça passe par le sélectionneur dès le début déjà, pour moi. Parce que j'ai pas l'impression qu'il a l'énergie et qu'il se fait encore entendre et qu'il n'y a plus les mêmes joueurs, on est en reconstruction. Est-ce que, enfin, même sur la liste, il y avait peut-être autre chose à faire aussi pour voir un peu d'autres joueurs. Par exemple, je prends l'exemple de Olise. Bon, moi, j'aime bien ce joueur, mais tu viens le chercher quand il signe au Bayern. Il faut absolument être dans un grand club pour pouvoir être en équipe de France. Mais pourquoi? Pourquoi? Peut-être qu'il faut aller chercher, même si t'es pas dans un grand club, forcément. Enfin, il faut tester puisqu'on est en
reconstruction. Pour le coup, il a pas trop tardé à le prendre, même si là, c'était pas évident de le prendre sur les postes offensifs.
Oui. Pour une grande compétition. Là, c'est un exemple que je donnais sur lui, hein. C'est un exemple que je donnais sur lui, mais il y en a plein d'autres. Pourquoi pas parier sur Akliou, sur Lesmelou, pourquoi pas le prendre, essayer, on sait pas. Pourquoi pas? Moi, j'ai envie de tester Lesmelou, pourquoi pas? Même pour le récompenser. Enfin, il y a plein de choses, on pourrait parler des heures, de toute façon, de ça. Mais pour moi, ça passe. Si on fait page blanche et si on est en reconstruction, ça passe par le sélectionneur. Mmh. Et après, on voit, puisqu'on a le temps sans avoir trop le temps, parce que c'est ce que je disais juste avant. Pour moi, on est en retard, tout simplement. Et je vais même dire individuellement, mais collectivement aussi, on est en retard par rapport à d'autres. Alors, est-ce qu'on surcote l'équipe de France parce qu'on se croit encore en 2018? Peut-être un petit peu. Et puis, sincèrement, être passionné de football, quand je regarde le match, et il faut, comme je disais juste avant, il faut avoir du courage pour regarder l'équipe de France.
Bon, on va en avoir un petit peu ce soir.
Il faut pas non plus voir tout noir, mais sincèrement, c'est compliqué. Hein.
Merci beaucoup, Maxime, de nous avoir donné ton avis sur cette équipe de France.
Salut, Maxime, merci. Salut tout le monde.
Salut, bon match quand même.
Mais oui, on
espère. Merci Maxime, merci Arthur Perrault. Salut Maxime, à bientôt sur RMC 32-16. N'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez parler avec nous de cette équipe de France. On va parler de Marcus Thuram dans un instant. Est-ce qu'il joue gros ce soir? Allez, page de pub. Rugby, un point rugby. Excuse-moi, j'ai failli te zapper, Roxane Lacusca. Alors qu'il s'est passé des choses dans ton testimage.
Il y a
eu des buts.
Pas des buts, coach, pas encore en tout cas. On attend la transformation, mais les Australiens qui viennent de marquer leur premier essai de la rencontre, 14e minute. Et c'est inscrit par l'arrière Tom Wright, servi par le demi d'ouverture Lolesio. Magnifique passe à l'aveugle, remise intérieure ensuite pour l'arrière australien. Transformation loupée par Lolesio. On en reste donc à 5-0 pour l'Australie. 14 minutes de jouer dans ce deuxième test match pour les deux équipes.
À tout à l'heure, Roxane. La pub et Intégral Foot revient. On va parler de l'équipe de France et de Marcus Thuram dans un instant.
C'est Intégral Foot.
Marina Lorenzo.
Avec Seb Piocel, avec Coach Courbis, avec vous, auditeurs au 32-16, pour parler de ce match Italie-France ce soir. Sixième match de la Ligue des Nations. C'est la tête du groupe qui se joue. On a déjà parlé des choix de Didier Deschamps dans la première demi-heure ensemble. Parmi ces choix, il y a Marcus Thuram. Marcus Thuram qui va certainement jouer gros ce soir, en tout cas attendu à ce poste-là. Seul en pointe, coach Courbis, Marcus Thuram. On en attend évidemment beaucoup en équipe de France parce que pour l'instant, c'est pas toujours efficace.
Oui, d'accord, mais bon, on a quand même Marcus Thuram qui est dans un club d'Italie, donc ce soir lui c'est un plaisir pour lui de jouer à San Siro. Ensuite l'organisation qui est mise en place pour Marcus Thuram, je crois que tous les numéros 9 seraient contents d'avoir un copain derrière et deux copains très talentueux sur les côtés avec la possibilité qu'il y ait en cours de match des rentrées de Dembélé ou de Barcola. On a déjà vu pire comme potentiel offensif. Ouais. Donc voir Marcus Thuram ce soir, on va tous le regarder comme des passionnés que nous sommes avec beaucoup de curiosité. Mais je pense que tout est mis en place pour qu'il puisse nous faire un gros match. Et je serais vraiment surpris et déçu que ça ne se passe pas comme ça. Ensuite, il peut être inquiet de quoi et de qui pour lui piquer la place en numéro 9 de Mbappé avec ses problèmes, de Colomani qui a quand même du mal dans son club. Non, il a, tout en étant concentré, une certaine... Il est vraiment tranquille d'esprit. Et je pense que tout est réuni pour qu'il nous fasse un bon match.
Ouais, pour toi, il y a un boulevard devant lui. Aucun doute, en tout cas, à son sujet, au sujet de sa qualité, bien sûr, et de sa capacité.
Et l'organisation qui est la nôtre, celle de l'équipe de France ce soir. Ben c'est tout est réuni pour que un numéro 9 qui se déplace, ben comme Thuram, qui a une certaine présence, qui en plus de ça est comme chez lui en Italie, ben je vais regarder ce match avec beaucoup d'attention, mais je serais vraiment étonné et surpris qu'il nous fasse pas un bon
et qui débloque son compteur, pourquoi pas, sur cette année 2024, parce qu'il a pas marqué encore cette année, Marcus Thuram. Seb, je t'entends dans un instant, juste Ibrahima Konaté, parce qu'il a été interrogé en conférence de presse sur son coéquipier, rassurant. Il l'a été, évidemment. Écoutez,
Marcus Thuram, c'est un joueur qui fait énormément de bien à son équipe à l'Inter. Maintenant, en équipe de France, certes, il est un petit peu moins efficace qu'à Milan, mais c'est un très grand joueur. Et l'efficacité, elle va venir, il va en mettre des buts. Donc, on ne s'inquiète pas du tout pour ça. S'il arrive à le faire en club, pourquoi il ne le ferait pas en sélection? Donc, non, ce qui lui manque, il lui manque rien du tout. C'est juste que ça va venir petit à petit.
Ça va venir, dit Ibrahima Konaté à Federico Balzaretti, ancien international italien qui était dans l'intégrale foot hier. Hyper intéressant, il nous parle de sa saison en Italie, évidemment avec son point de vue à lui. Écoutez, il tarit pas d'éloge à son encontre.
Le système, ça fait la différence. Et l'Inter, c'est un système qui marche très bien, où lui, il a une considération vraiment très importante. Et je peux te dire, cette année, c'est le joueur plus important de la Serie A. Ah. C'est lui qui a eu l'impact plus grand. Il performe très très bien. L'Inter. Moi, je l'ai vu live à l'Inter 4 fois, il a toujours été le meilleur. Et à niveau physique, il va détruire tous les joueurs, quasi. Bon, je viens en France, je ne vais pas considérer, peut-être le système, ce n'est pas le meilleur pour lui. Il joue, il ne joue pas, il est toujours en discussion. Et ça, peut-être, est dans sa tête, ça va lui conditionner. Mais.
Oui, Seb, sur ce cas Thuram.
Alors, pour tout ce qu'a dit tout à l'heure Roland, pour moi, je trouve qu'il joue gros, en fait. Alors, très gros, je ne sais pas, mais parce qu'il n'y a pas une concurrence énorme. Mais bon, ça fait quand même 4 ans qu'il est en sélection. Il a marqué 2 buts.
Ouais.
Donc forcément, quand tu es normalement l'attaquant numéro 1 ou l'avancante de l'équipe de France, d'une grande nation mondiale, tu te dois quand même d'avoir des statistiques. Alors, je comprends, les joueurs d'équipe. Moi aussi, quand j'étais milieu de terrain, j'adorais avoir un attaquant aussi qui pesait sur les défenses, qui permettait de créer des brèches pour les autres joueurs. Mais à un moment donné, c'est aussi les statistiques qui comptent. Et c'est vrai qu'avec le dispositif de ce soir, normalement, il est, on va dire, je sais pas si c'est les meilleurs, mais dans des bonnes dispositions pour pouvoir être performant. Après, face à une équipe et des joueurs qu'il connaît bien, puisqu'il les côtoie la plupart le week-end. Et c'est vrai que sur ce que disait Balzaretti, moi qui suis beaucoup la Serie A, il fait un début de saison énorme dans un 3-5-2 avec Lautaro Martinez, où il s'entend très très bien. Il profite aussi des courses de Martinez. Mais Roland, le truc, c'est que moi, je trouve quand même qu'il joue gros parce que 4 ans, 2 buts, ça fait 4 ans, 27 sélections, 2 buts. On est en droit, quand on avait un Olivier Giroud qui a quand même été hyper décrié pendant toutes ces années et qui est le recordman de buts en équipe de France, on est en attente d'avoir un attaquant qui stats un peu plus quand même. Et j'espère que dans ce dispositif-là, il arrive justement à être performant et à devenir vraiment le numéro 1 en France.
Ça peut être une révélation ce soir.
Ouais, mais si tu veux, malheureusement, on peut plus le comparer à Giroud. On peut avoir des regrets et on peut avoir des regrets aussi de l'utilisation de Giroud. Giroud, pour moi, ça n'a jamais été un joker pour entrer dans les 20 dernières minutes comme des fois ce fut le cas. Il démarrait 37 ans avec une certaine morphologie et en ce qui concerne, je vais pas maintenant m'égarer avec Giroud. Là, c'est un mauvais souvenir pour nous. L'utilisation de Giroud et la mauvaise utilisation de Giroud dans le dernier championnat d'Europe. Aujourd'hui, parlons de Thuram. Et si on veut regarder un petit peu et faire des comparaisons, comme l'on peut faire des comparaisons dans ce qui se passe en équipe nationale et ce qui se passe dans leur club, tu l'as dit, il y a un duo qui s'est formé avec l'Argentin Martinez. Mais aujourd'hui, quand je vois la possibilité, parce qu'elle va quand même arriver dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, c'est un retour de Mbappé et la possibilité de voir un duo dans notre équipe de France, à condition que Didier soit d'accord avec nous, qu'il peut y avoir un Mbappé en retrait de Thuram, qui se partage le boulot, une présence athlétique de Thuram et une vitesse de course d'Mbappé sur des ballons en profondeur, qui sera capable de les donner ces ballons en profondeur. Eh ben, il y a quand même des gars sur les côtés qui sont talentueux, et rencontrer l'équipe de France avec un Thuram, un Mbappé dans un rôle de 9 et demi, Barcola
et Dembélé,
justement, Dembélé ou Olysée, Barcola ou celui de ce soir, je perds
Coman, par exemple, ou
Coman. Mais tu t'imagines Nkunku, tu t'imagines l'équipe qu'il y a, et cette équipe là ben sincèrement, je suis adversaire de cette équipe là j'ai mal à la tête, désolé. Et ça,
mais
justement, il arrivera un moment où Didier qui aura passé son temps, qui aura été compétent, arrivé à un certain moment, Didier sera obligé de comprendre qu'un Thuram ne peut pas être moyen en équipe de France et très bon dans son club, un tel ne peut pas être moyen en équipe de France et très bon dans son club, et notre équipe de France, il n'y a aucun club qui joue avec trois numéros 6 et aucun numéro 10. Ça arrive à un certain moment, Didier, mais je le vois suffisamment intelligent pour anticiper avant, sinon il va avoir certains problèmes obligatoirement, malheureusement pour lui.
Coach, on va accueillir Stéphane pour avoir son avis aussi sur cette soirée de Marcus Thuram. Salut Stéphane.
Ouais, bonsoir l'équipe.
Bienvenue.
Je suis un peu d'accord avec Roland. Alors moi je pense quand même, à contrario de Roland, je pense qu'il faut qu'il fasse un gros match. Après, si l'équipe, parce que là il met quand même une équipe où il y a des mecs qui sont capables.
Je peux te couper 30 secondes. Si Thuram avait fait un gros match contre l'Israël avec un 4-2-3-1, ça serait la même réflexion pour nous du Thuram de ce soir contre cette équipe d'Italie qui est en train de retrouver un certain niveau. Le match pour Thuram ce soir, je suis d'accord qu'il est important, mais l'adversaire aussi, c'est difficile en ce moment de trouver mieux.
Attends Roland, le problème que t'es en train de dire, l'Italie, ils sont plantés à l'euro, ils ont changé complètement de système.
Ouais, mais ça revient.
Je suis désolé. Je te parle de l'Italie depuis 3-4 semaines.
Depuis
3-4 semaines, c'est pas un cadeau. Hein.
Voilà, que tu mettes Colomoigny, que tu mettes Thuram, si derrière t'as pas les mecs qui leur mettent des ballons devant, tu peux mettre qui tu veux. Je veux dire, Olysée, en ce moment, il a fait deux bons matchs. Après les Jeux Olympiques, après le mec il se prend pour un joueur de futsal, c'est-à-dire qu'il met 3 heures à la mettre sur les côtés, on n'a pas un mec qui s'est centré. Tu prends Théo Hernandez, alors là il va mettre Lucas Digne.
Attends, on n'a pas un mec qui s'est centré, c'est-à-dire non. Que Barcola, Coman, Dembélé, Olysée, ça peut pas être des joueurs talentueux pour jouer sur le côté. Excuse-moi, j'aurais bien aimé avoir ces joueurs là dans la période où j'étais entraîneur.
Roland, ça peut, mais est-ce que tu l'as vu? Moi, je suis désolé, j'ai rien vu. Est-ce que tu as vu Barcola centré?
C'est sûr que c'est pas avec la composition d'équipe qu'on a eue contre l'Israël que je pouvais voir des choses comme ça.
Non, mais par contre, tu avais Barcola et Olysée d'un côté. Est-ce que tu as vu
Zahir Emery, numéro 10.
Est-ce que tu as vu des ballons centrés?
Je peux pas discuter avec l'équipe que nous venons d'avoir contre l'Israël, et notamment l'utilisation de Zahir Emery. Je ne peux que t'écouter, je ne peux pas discuter.
Stéphane, je reviens juste quand même à la volonté du sélectionneur, parce que c'est lui qui décide, et j'insiste sur le fait que là ce soir ça va jouer comme ça, mais je suis persuadé qu'il a pas une réelle volonté de jouer avec 4 joueurs offensifs. Il va le faire ce soir.
Non, mais je suis d'accord. Et à un moment donné, celui qui peut l'aider à s'en sortir, c'est Nkunku. Parce que lui, en fait, j'allais dire le gamin. Oui, parce que je suis beaucoup plus vieux que lui.
on est tous plus vieux.
C'est un joueur qui est bourré de qualité et malheureusement, on le voit pas assez. Mais, c'est là où ils peuvent s'en sortir. Mais moi, je reste persuadé depuis qu'il a re-signé Deschamps et qu'il met ces joueurs-là, malheureusement, Koeman, ça fait la différence en un contre un. Encore que Koeman, il est capable de lui mettre des ballons devant. Les autres, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à jouer,
Là où Nkunku est intéressant, c'est que c'est un joueur aussi, au-delà de l'aspect offensif, c'est un joueur qui court beaucoup et qui est capable aussi, à la perte de balles, voilà, d'être hyper intéressant avec les deux milieux de terrain. Après, à voir sur la durée, est-ce qu'il ne joue pas beaucoup non plus à Chelsea? Mais je pense que pour le coup, on parle beaucoup de Thuram, mais c'est normal. Mais je pense que Nkunku a vraiment une grosse carte à jouer sur ce match-là par rapport à ce que Deschamps veut mettre en place pour la suite.
C'est l'avis que vous défendez, coach et Seb. On en parlera tout à l'heure à partir de 18h30. Merci beaucoup, Stéphane. Bon match. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous au 32-16 dans un instant.
Salut, Stéphane.
Salut. On parlera de la Belgique avec un confrère belge qui sera en direct avec nous. Mais avant cela, un petit point rugby avec toi, Roxane Lacusca, Pays de Galles, Australie.
On joue depuis bientôt 30 minutes entre le Pays de Galles et l'Australie. Il s'en est passé des choses depuis la dernière fois qu'on s'est eu 3 essais inscrits, 2 par l'Australie, 2 essais supplémentaires à la 17e puis à la 22e minute. Le premier inscrit par Nick Frost après une interception sur un mauvais plaquage contre les Gallois qui ont perdu la balle à ce moment-là. Nick Frost qui a filé derrière l'en-but. Et puis le deuxième essai inscrit par Matt Fessler, le talonneur des Australiens. Un essai tout en puissance suite à une touche. Mais la réponse des Gallois ne s'est pas faite attendre. 3 minutes plus tard, à la 25e, un essai de Aaron Wainwright, le troisième ligne gallois, qui vient donner un peu d'air aux Gallois. 19-7, on joue depuis 30 minutes et une pénalité à suivre pour les Gallois qui va être tentée par par Gareth Anscombe, pardon, le demi d'ouverture.
Merci Roxane pour ce test match. Toujours avantage à l'Australie. On se retrouve tout à l'heure, dans un instant, une petite page de pub. On va parler de la Belgique avec un confrère qui suit les Diables Rouges, Fred Vazèche, qui est en direct avec nous dans un instant. À tout de suite.
RMC Intégral Foot,
Marina Lorenzo
avec Seb Piocel, avec coach Courbis. Toujours avant cette Italie-France ce soir, on va parler d'Italie dans un instant et faire le bilan également de 2024 des Bleus. Mais une petite page Belgique tout d'abord, parce que eh bien ils l'attendent de pied ferme, le renouveau, nos voisins belges, le renouveau dont on parlera, qui touche l'Italie. On est avec Fred Wassès, journaliste belge auprès des Diables Rouges, correspondant de la RTBF. Salut Fred, bienvenue dans l'Intégral Foot.
Ouais, salut à tous.
Salut Fred.
Merci d'être avec nous. Alors on se pose cette question de la crise dans cette équipe de Belgique. C'est une crise qui semble profonde, en tout cas là, qui a l'air d'être s'accélérer. Quoi, la défaite de l'Italie a tendu encore un peu plus les choses, non, avant le match ce soir.
Oui, mais si vous permettez, je vous écoute depuis un quart d'heure et je voudrais quand même vous dire à quel point vous avez de la chance d'avoir des problèmes comme vous avez, quoi. Est-ce que c'est Barcola qui va centrer? Est-ce que c'est Coman? Est-ce que c'est Mbélé? Est-ce que vous avez, monsieur Courbis a dit, les adversaires ont mal la tête quand ils jouent la France, il a raison. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'avoir à chaque poste 3 joueurs de qualité égale? Et nous, on aimerait bien aussi avoir mal la tête à se demander qui va jouer. Voilà.
Ça, on a des problèmes de riches, c'est ça, Fred?
Exactement. La qualité de vos joueurs est absolument incroyable. Et donc chez nous, on n'a pas cette chance-là, même si cette nouvelle génération est faite de magnifiques joueurs. Mais bon, avoir des bons joueurs, c'est une chose. Avoir une bonne équipe, en est une autre.
Ça, on est bien d'accord.
Et c'est notre problème, quoi. Voilà, c'est notre problème. On a un nouveau coach qui est un gamin de 38 ans et qui essaye, mais à un moment donné, voilà, essayer, c'est raté. On aimerait bien avoir une structure un peu globale de notre football et on n'arrive pas à l'avoir.
Est-ce que c'est pas sa dernière chance ce soir-là?
Ça, j'en sais rien, parce qu'il faut que vous sachiez que notre fédération n'a pas d'argent. Donc, ce gamin de 38 ans qui n'avait pas vraiment d'expérience, évidemment, il n'avait aucune expérience au niveau des équipes nationales. C'est autre chose que d'entraîner en club, que d'entraîner une équipe nationale, parce que vous avez vos joueurs de temps en temps, 2-3 jours, alors qu'un club, vous les avez tous les jours. Mais on l'a pris, on sait tous que c'était pas le premier choix. Mm-hmm. Mais donc, l'enthousiasme de la jeunesse, on y croyait à fond. Sauf que maintenant, on se rend compte que, à force de tout changer tout le temps, voilà, on arrive à rien parce qu'on ne comprend pas où on va, on n'a pas vraiment une structure. Donc voilà, le garçon n'en peut rien, on l'a choisi. Mais ça commence à gronder et voilà, il se fait qu'il y a encore 5 défections aujourd'hui par rapport au match contre l'Italie. On commence à se poser beaucoup de questions.
Il y a beaucoup de blessés aussi, non? Il y a beaucoup, beaucoup d'absents. Je lisais ça sur les 50 présélectionnés là.
C'est incroyable.
D'absents.
Oui, mais bon, il y a beaucoup d'absents, il y a beaucoup de blessés, mais vous savez comme moi que les blessures, quand vous croyez en un concept, en une idée, ben vous êtes moins vite blessé. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, donc voilà. C'est dans la tête que ça joue aussi.
Oui, évidemment. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'a pas de bol, il y a eu beaucoup de blessés, mais voilà, par exemple maintenant, Lukaku, il n'avait pas l'air blessé contre l'Italie. Et voilà, il retourne, peut-être que c'est un accord avec Naples qui ne devait jouer qu'un match. Bon, il y a eu bien sûr Théâtre qui n'est pas là, que vous connaissez en France, qui a eu une altercation en plein match avec Fass. Ils se sont au niveau du corps, là, ils se sont touchés tellement de théâtre, on avait marre des attitudes de face. Donc, ça fait beaucoup de petites choses.
Je peux le comprendre, théâtre, par contre.
Ah ben moi je suis d'accord avec vous. Ouais. Moi je suis complètement d'accord avec vous parce que face, bon ok, il est pas mal, mais ses attitudes corporelles sont vraiment exaspérantes pour ses coéquipiers puisqu'on a toujours l'impression que lui fait bien et que les autres font mal. Donc je peux comprendre théâtre complètement dans son attitude. Donc voilà, ce sont des petites choses qui à l'époque de la génération dorée, comme on l'appelait, n'arrivaient pas parce que là il y avait une idée claire, il y avait un concept de jeu. Et là on se demande pourquoi est-ce qu'on cherche autant. Il faut quand même que vous sachiez qu'en un an et demi, notre entraîneur, il a convoqué 53 joueurs. On a joué dans 5 systèmes tactiques différents. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il a perdu, il a perdu des cadres aussi, un petit peu dans.
Oui, mais bien sûr que ce n'est pas évident. Ben oui, mais il y a eu Eden Hazard, il y a eu Alvaro Herold, il y a eu Witzel, et puis il y a eu cette histoire Courtois, évidemment, où là, ouais, franchement, j'ai envie de prendre la défense de notre sélectionneur. Il n'a pas du tout été aidé par la fédération. Parce que non seulement il y a un petit problème sur le terrain, mais au niveau de la fédération belge, on se demande qui dirige. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a personne qui a été là pour le conseiller. Donc lui, il arrive, il a 38 ans, et on le laisse un petit peu seul pour gérer le cas Courtois.
Je vous rappelle, vas-y, je t'en prie.
On ne lui a pas donné le brassard pour sa 100e, et donc il était fâché. Donc il a dit je ne viens plus, enfin soit. Ce genre de problème n'arrive pas quand il y a une idée commune au niveau de tout, à tous les niveaux du football, d'un football national, c'est-à-dire dirigeants, entraîneurs, staff et joueurs. Et pour l'instant, chez nous en Belgique, le petit problème, c'est qu'on a l'impression que tout le monde est un petit peu, court un peu dans tous les sens et on ne trouve pas la ligne directrice.
Ça a bougé pourtant à la tête de la fédération, vous avez un nouveau président?
Non, c'est pas un président, c'est un directeur technique. Oui. Et voilà, donc on est passé de Francky Vercoteron, que vous connaissez en France, il a joué chez Voinant, qui est un ancien des Alpes, qui est un footballeur, un excellent footballeur, qui a été entraîneur, et maintenant on prend un ancien dirigeant de club, donc du club de Bruges, qui est un grand spécialiste des transferts. Donc il achetait pour pas cher et il revendait pour très cher. Donc je dis bravo à lui, mais
il faut savoir. En sélection, ça sert pas à grand chose.
Oui, c'est ça.
Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais des transferts en sélection, c'est pas souvent.
Et ah donc, oui, donc pas d'espoir de changement. Même au sein de la fédération et pas d'espoir à venir. Alors du coup du tout dans les rangs des médias et des suiveurs des Diables Rouges.
Ben l'espoir il est que on a des jeunes qui arrivent qui sont excellents. Mais à un moment donné ces jeunes-là ils ne seront bons que si il y a un système de jeu. Vous savez, on ne joue jamais avec le même système, on ne joue jamais avec les mêmes joueurs. Donc, à un moment donné, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la base de tout, c'est quand même le vécu commun. C'est les minutes jouées ensemble. Ce n'est pas se dire, tiens, le mec à côté de moi, qu'est-ce qu'il va faire? Mais se dire, je sais ce qu'il va faire, donc on va anticiper, donc on va gagner un dixième de seconde qui fait que on est dominant ou on est dominé. Donc voilà, moi, je suis rien, mais moi, je me dis, j'aimerais bien avoir un système de jeu qu'on va appliquer 2, 3, 4, 5 matchs de suite et avoir des tauliers, 5, 6 tauliers. Donc titulaire indiscutable et après on met quelques petites pépites comme on en a pour pouvoir agrémenter notre jeu offensif. Maintenant c'est vrai que l'entraîneur n'a pas eu de chance, il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté, d'autres qui choisissent quand ils viennent et beaucoup de blessures. Donc c'est pas évident pour lui, mais je pense que la base de tout c'est quand même le vécu commun, les minutes communes passées ensemble pour pouvoir avoir un objectif. Voilà. Et j'ai l'impression que là ça part dans tous les sens et que c'est compliqué.
Il y a pas un nom de sélectionneur non qui circule
non pas encore
parce que justement s'il y a de la qualité comme tu le dis au niveau des jeunes et ça je veux bien te croire parce que en Belgique ça travaille quand même très bien même au niveau des clubs et peut-être qu'il faudrait avoir alors je dis pas qu'il faudrait le sélectionneur des espoirs par exemple mais s'il y a une bonne base de jeunes peut-être pour repartir et puis quelque part faire un peu le dos rond, se remettre au travail et puis que ça reprenne un peu plus de temps pour que ce soit un peu plus cohérent, ça serait peut-être bien d'avoir quelqu'un issu du football belge, ça pourrait être pas mal.
Oui, c'est un fait mais bon, la cohérence, elle est où? Vous savez que nos espoirs, ils pouvaient encore se qualifier pour l'Euro. Et qu'est-ce qu'on a fait avec tous les blessés qu'il y a eu? On a pris des bons joueurs des espoirs pour les mettre avec les 1, aller en tribune ou rester sur le banc pendant nos minutes. Et nos espoirs ont été battus 0-2 par la Tchéquie. Vous voyez, je vois pas où est la cohérence. Ouais. Une génération qui arrive, une génération, elle se crée, une équipe se crée. Quand on participe à des grands tournois, comme d'abord se qualifier, y participer. Vous savez, la génération dorée avec les compagnies, les hasards, elle s'est créée à Pékin pendant les Jeux Olympiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on va chercher des jeunes, on déforce nos espoirs, qui vont peut-être pas se qualifier à cause de ça. Et voilà. Maintenant, vous parliez d'un autre entraîneur. Mais bon, d'abord, cet entraîneur, c'était pas le premier choix. On l'a pris parce qu'il n'y a pas d'argent à la fédération. Et maintenant, on nous dit, oui, mais on n'a pas d'argent pour le virer. Vous imaginez où on en est?
Ouais, situation de blocage total avant un match ce soir pour une place de barragiste contre Israël pour cette équipe de Belgique. Ben qu'on vous souhaite bien meilleur dans les mois à venir, nos voisins belges. On connaît la qualité de vos joueurs. Bon courage alors, Fred Wessage. Merci d'avoir été avec nous.
Ben, je vous en prie, et rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Le football, c'est une chose, la vie en est une autre. Donc, on va continuer à avancer.
Merci et bon courage.
Salut.
Merci Fred, merci beaucoup. Dans un instant, on va parler tennis, hein, puisque c'est la finale du Masters qui va commencer entre Yannick Sinner et Taylor Fritz. Eric Salio va tout nous dire. Et puis, on retrouvera la voix du foot, Jeannot Rességuier, pour revenir, bien sûr, sur cette année 2024. Avant la pause, un petit point rugby avec toi, Roxane. On est sur Pays de Galles, Australie.
Oui, la mi-temps qui ne devrait pas tarder à être sifflée. 40 minutes et 30 secondes de jouer ici au Principality Stadium. Et les Gallois, 19 à 13 pour les Australiens. Mais les Gallois qui viennent de gagner un ballon précieux là. C'était les Australiens qui étaient dans les 22 mètres gallois à deux doigts d'aller inscrire un quatrième essai. Mais voilà, les Gallois qui s'en sont sortis. 19 à 13, c'est la pause au Principality Stadium.
L'intégrale foot avec Jeannot Rességuier dans un instant. Le bilan 2024 pour ces Bleus. On va se poser la question avec toi, Seb, avec toi, coach Courbis également. À tout de suite.
RMC Intégrale Foot.
Marina Lorenzo.
Avec Seb Piocel, avec coach Courbis et avec notre voix du foot sur RMC, c'est Jeannot Rességuier qui est en direct avec nous d'Italie. Bienvenue Jeannot.
Bonsoir à vous, bonsoir Marina, bonsoir coach et Sébastien.
Salut Jeannot, c'est ça.
Salut Jeannot, avec ce dernier match de l'année 2024 pour les Bleus qui se profile face à l'Italie tout à l'heure. Alors on s'est dit, avant le match, parce qu'évidemment on tirera des bilans aussi après et selon le résultat et ce qui s'est passé dans cette partie, on voulait quand même se faire un petit bilan de cette année 2024, parce que le moins qu'on puisse dire c'est, bon qu'elle n'est pas glorieuse, mais enfin il y a peut-être des choses positives à sortir, on va voir ça ensemble Jeannot. C'est vrai que déjà, au niveau des buts et de l'efficacité offensive, on n'a pas été trop servi, quoi.
Non, alors si vous voulez, on remonte le temps, mars 2024, on commence déjà très mal l'année puisque on est battu par l'Allemagne, souvenez-vous, sur le score de 2-0 et que derrière, c'était à Lyon, ensuite à Marseille, il y a une victoire difficile contre le Chili, 3-2, et d'ailleurs à cette occasion, c'était, on le saura maintenant, on le sait plus tard, le dernier but de Giroud en équipe de France. Après, il y a eu ce match contre le Luxembourg 3-0, le Canada 0-0 pour préparer le championnat d'Europe. On n'était pas plus inquiet que cela, mais quand on regarde dans le détail le championnat d'Europe, une petite victoire contre l'Autriche avec un but de Weber contre son camp, un match nul contre les Pays-Bas, un match nul contre la Pologne avec un but de Mbappé sur penalty, la Belgique en huitième de finale, le but de Vertonghen contre son camp, le Portugal en quart de finale 0-0, tir au but, et puis enfin un but dans le cours du jeu signé Kolo Muani qui avait ouvert le score en demi-finale contre l'Espagne, et patatras derrière, on a complètement explosé sur ce match-là. 4 buts marqués pour 3 encaissés, ça c'était pour le championnat d'Europe, puisque tu évoquais justement le manque d'efficacité, Marina. Et puis la Ligue des Nations, en fait, elle est un petit peu en trompe-l'œil, parce que quand on regarde la victoire contre Israël, 4-1, le 2-0 contre la Belgique et le 2-1 en Belgique, on pourrait dire qu'on a marqué plus de buts, oui, qu'on s'est enfin réveillé, sauf qu'il y a la défaite contre l'Italie avec le but de Barcola qui avait ouvert le score, souvenez-vous, 13 secondes après le coup d'envoi, c'était déjà entré à sa manière pour le Parisien dans le livre des records de l'équipe de France. 9 buts marqués contre 5 parce que derrière il y a eu cette défaite, ok, puis il y a eu surtout ce 0-0 contre Israël. Donc quand on regarde dans le détail cette année 2024, elle est plus que moyenne, d'autant plus qu'il y a ces 4 matchs qui se termine par 0-0. Faut remonter 20 ans en arrière pour trouver la trace d'un parcours aussi peu prolifique. On ajoute à cela le problème Kylian Mbappé, qui a eu ses soucis et physiques et psychologiques et d'un point de vue personnel lors de son absence du précédent rassemblement. Retraite de Giroud, j'en parlais. Retraite de Griezmann, qui elle a été plus surprenante qu'autre chose. Donc dans les circonstances, on va dire que pour Didier Deschamps, tout n'a pas été clair pour la mise en place. Mais en revanche, il campe sur ce qu'il avait annoncé, c'est-à-dire la réoxygénation de son groupe en faisant confiance à des jeunes. Je pense à Olise, je pense à Koné, et la volonté de revoir des joueurs, Kamavinga, Zaïre Emery, Barcola, Kolo Muani en numéro 9, Guendouzi, et puis Nkunku de retour, même s'il n'est pas titulaire à Chelsea. Donc voilà un peu comment on peut peindre ce tableau de cette année 2024 en, je ne vous le cache pas, en attendant quand même quelque chose de bien, une notion d'orgueil ce soir ici à San Siro face à l'Italie, parce que on peut pas dire qu'on entrerait dans une crise, parce qu'on va quitter l'équipe de France pendant 4 mois et la retrouver pour les quarts de finale de cette Ligue des Nations au mois de mars prochain, mais quand même. Ça ferait quand même des ordres.
Oui. Et puis ça ferait du bien à tout le monde, je pense, de terminer effectivement sur une bonne note cette année, qui est une année de mutation de toute manière. Donc c'est vrai que il y a des choses qui s'expliquent. Les supporters et fans de l'équipe de France n'étaient pas à venir nous rejoindre au 32-16 pour participer à ce débat avec Jeannot Rességui, avec Sepp Piocel et coach Courbis. C'est vrai, peut-être coach aussi qu'on reste. Alors évidemment, les statistiques sont pas bonnes, mais on reste bloqué aussi beaucoup sur ce match jeudi qui a un peu confirmé le fait que on se régalait pas avec l'équipe de France aussi. Même si, parce qu'il y en a eu des matchs quand même qui ont été plutôt agréables à suivre aussi.
Oui, d'accord. Mais bon, si on enlève le contexte de ce match-là et qu'on regarde la composition de notre équipe, et j'insiste là-dessus parce que sincèrement, j'ai toujours pas réalisé que ce soit possible avec Zaïre Emery dans un rôle de numéro 10. Sincèrement, je pense qu'il vaut mieux passer à autre chose.
Oui, on oublie ça.
Parce que là, c'est tout simplement incompréhensible. Donc, maintenant, là où moi, j'attache de l'importance, c'est parce que on ne peut pas, du jour au lendemain, ne plus parler d'Mbappé. Donc, nous avons notre équipe de France depuis des années, que ce soit aussi en club, le Paris Saint-Germain, où nous avons l'habitude d'un exploit régulièrement, ou d'une efficacité sur une action de Mbappé. Aujourd'hui, je vous donne deux idées en ce qui concerne l'éventualité d'un bon résultat. L'équipe de France fait le bon résultat, malgré l'absence d'Mbappé.
Oui.
C'est pas malgré l'absence de n'importe qui là, donc, et peut-être aussi avec l'absence d'Mbappé, l'équipe de France a quand même réussi ou n'a pas pu réussir mieux que ce match nul à San Siro. Mais Mbappé, pour notre équipe de France, on ne peut pas non plus en parler 24 heures sur 24 et ne plus en parler du tout après.
Tu veux dire qu'en gros, tirer le bilan de cette année 2024 sans dire les derniers matchs c'était sans Mbappé, ça a pas de sens, c'est ça?
Ben c'est pas que ça a pas de sens, c'est que dans les semaines et les mois à venir, on espère pour notre équipe de France qu'il y ait un potentiel offensif comme il existe. Hein, notre ami belge nous donne quand même raison et même trouve qu'on est des enfants gâtés, mais on peut pas non plus ne pas rajouter le retour espéré de Kylian Mbappé. Quand j'ai dit le retour espéré, c'est pas en ce qui concerne ses problèmes, c'est en ce qui concerne sa forme. Est-ce que nous allons revoir un jour cet Mbappé irrésistible que nous avons eu la chance de connaître il y a 2-3 ans de ça?
Après, ça, si je peux me permettre,
je n'ai pas la réponse.
Kylian Mbappé, sur le bilan de l'équipe de France de 2024, il est inclus dedans parce qu'il est transparent. C'est un but contre Luxembourg, un pénalty contre la Pologne, et après plus rien. Et en plus, derrière, pas là contre Israël, pas là contre la Belgique, pas là contre Israël le match retour, et pas là ce soir. Donc ça veut dire aussi que Kylian Mbappé a traversé cette année 2024 avec le maillot de l'équipe de France en toute transparence. Donc les deux sont liés aussi. Enfin, pour moi, quand je dépeins le tableau tout à l'heure, je lis les deux automatiquement. Après, j'entends ce que dit Didier Deschamps. Il est pas là, laissez-le tranquille. Ok, il est pas là, on va le laisser tranquille. Oui. On va pas en parler. On va attendre un petit peu de voir comment il va se requinquer avec le Real Madrid. Mais ce qu'on attend surtout, c'est d'avoir le retour du leader du foot français. Et c'est là où tu as raison, coach Courbis. C'est à ce niveau-là qu'on peut avoir quelques inquiétudes. Mais encore une fois, entre aujourd'hui et le prochain match de l'équipe de France, il y aura 4 mois. Donc, on va penser que Mbappé va revenir en forme.
Seb.
Je vais laisser parler les deux dinosaures. Là. non, mais au-delà de tous ces chiffres, moi, je trouve qu'il y a, concrètement, il y a un vrai désamour un petit peu aussi pour cette équipe de France. Alors oui, on a été demi-finaliste de l'Euro, mais je trouve que c'est pas du tout enthousiasmant et ça se ressent autour même de l'équipe de France. On a vécu cet Euro-là, tu te dis bon, demi-finale c'est pas mal en termes de résultats, dernier carré, mais je trouve qu'elle donne elle te ramène rien, cette équipe de France. Donc sur le plan offensif, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais on en a parlé toute l'année 2024. On fait que chercher. Didier Deschamps est plutôt un entraîneur à vocation défensive, et je trouve que finalement, à force de chercher, comme cette équipe-là n'a rien gagné, alors je parle pas de ceux qui ont été champions du monde en 2018, parce qu'il y en a de moins en moins qui sont dans ce groupe-là. Du coup, derrière, on a du mal à vraiment à s'identifier, et ce qui fait qu'au-delà du bilan comptable, de tout ce que, tous les chiffres qu'a pu donner Jeannot, c'est que on a presque envie de moins la suivre. Nous, on la suit parce que voilà, c'est aussi, on aime le foot, c'est notre métier. Mais je trouve qu'au-delà de tout ça, on s'emmerde, quoi, en fait.
Donc, et on s'attend plus à grand chose aussi, c'est vrai que c'est ça.
C'est ce qu'on disait avec Roland tout à l'heure. On aimerait avoir quatre joueurs offensifs dans cette équipe, mais moi, je me répète aussi, je pense que ça n'arrivera pas avec Didier Deschamps. Ça va arriver ce soir, mais pour les grands rendez-vous, ça n'arrivera pas. Donc, moi, je vote pour un changement, et je pense que même si on peut rien dire sur le bilan, pour le coup comptable de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, qui est quand même
sur
énorme.
Sa globalité, ouais.
À un moment donné, je pense que il y a besoin vraiment de changement pour que, à un moment donné, en 2025 aussi, on part sur autre chose parce qu'on s'emmerde.
Les changements, Seb, on les a eus. L'histoire de la réoxygénation du groupe, de faire venir des joueurs comme Olysse, comme Koné, de leur donner du temps de jeu.
Sébastien. Mais à l'arrivée, c'est Zahir Emery qui joue en numéro 10. Il a raison.
Non, mais attends, arrêtez avec ça. Zahir Emery en numéro 10, c'est le poste, c'est pas un numéro 10. Il occupait le poste qu'il occupe au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'on lui demande de dézoner et de venir au plus près des attaquants. Donc, ça, pour moi, c'est un faux débat. Par rapport à la globalité de justement l'envie de voir une équipe, de voir une équipe, juste laisse-moi finir, coach, de voir une équipe sur le côté offensif avec Olysse, avec Barcola, avec des joueurs qui ont la possibilité de se donner un peu plus. Nkunku, c'est là où moi je regrette pour ces joueurs-là que semble-t-il le message de Deschamps ne soit pas correctement passé. Pourquoi ces gars-là ne se sont pas dépouillés contre l'Italie, contre la Belgique, contre Israël? Pourquoi ils ne se sont pas dépouillés jeudi soir, nous montrer qu'ils étaient capables d'apporter quelque chose, et en espérant que ce soir, Olysse, Thuram, Nkunku et Coman vont apporter quelque chose justement dans le secteur offensif. Il a parlé d'oxygénation, mais ils n'ont pas saisi l'opportunité, ces joueurs-là. Et il continue à leur faire confiance. Il les remet encore en selle. Je pense à Nkunku et à Olysse qui vont être titulaires ce soir. Donc ça veut dire quelque part que soit ils n'entendent pas le message, soit ils veulent pas l'entendre, soit ils n'ont pas les moyens d'être au niveau des espérances du sélectionneur.
Oui, ou que le message ne passe plus complètement, peut-être aussi.
Moi, après, encore une fois, on a le droit de critiquer le sélectionneur. On lui a fait aussi des louanges quand il fallait.
Oui.
Mais à un moment donné, je me répète encore une fois, c'est pas un entraîneur qui prône vraiment le jeu offensif. Le coach l'a dit, on a un extraterrestre depuis des années qui est moins bien depuis quelques mois, mais qui t'a sorti des fois de situations improbables par son talent, et ça a masqué aussi par moments aussi en club au Paris Saint-Germain. Là, il est aussi lui quelque part dans le trou. Et aujourd'hui, t'as des joueurs de talent, t'as des jeunes joueurs de talent. Barcola, ça a du talent. Dembélé, ça a quand même du talent. Nkunku. Mais on produit rien collectivement, je dirais. Avec tout ce qu'on a, ce que disait notre confrère belge, avec toutes les armes qu'on a, aujourd'hui, c'est insuffisant. Et je suis désolé, on se fait chier.
5 matchs sur 15 sans marquer en 2024. C'est vrai que quand on voit les atouts offensifs que l'on peut avoir dans cette équipe de France, c'est ça paraît énorme. Un tiers des matchs, finalement, sont marqués au quart.
Mais n'oubliez pas qu'on a eu des grands attaquants, et je pense à Giroud qui restait pendant un moment en panne en équipe de France, sans parler des 1111 minutes, ça me revient en tête, de Karim Benzema sans marquer en équipe de France jusqu'à ce qu'il mette un but contre l'Australie au Parc des Princes en 2011. N'oubliez pas ça.
Et
Griezmann aussi qui a été sur une pente descendante. Donc ça veut dire qu'on est sur une période où on est moins efficace.
Oui, mais après, au niveau collectif, c'est ça qui est inquiétant quand même.
D'accord, mais on a peut-être moins de génie aussi de façon individuelle, capable de faire basculer un match, à part un Kylian Mbappé quand il est en très grande forme.
Coach, tu voulais réagir?
Oui, complètement, dans le sens que, bon, moi, je suis obligé de regarder ce qui se passe, et si Didier, et Dieu sait qu'on l'aime bien, mais quand Didier, il est critiqué, ben, parfois, il est critiqué parce qu'il est critiquable. Et la question que, moi, je me ferais un plaisir de lui poser, c'est, en ce qui concerne l'année, par exemple, 2024, quel que soit le résultat, mais ça fait rien. Le résultat de ce soir pour clôturer cette année mi-figue, mi-raisin, je sais pas s'il y a plus de figues ou plus de raisins, ça, on verra avec le dernier match contre l'Italie. Didier, est-ce que nous aurions pas pu faire mieux, voire même beaucoup mieux? Désolé, mais ça, c'est ce que nous pensons, nous.
18h15 sur RMC, vous êtes dans l'intégrale foot avec Jeannot Rességuier, Seb Piocelle et coach Courbis. On continue de parler de cette équipe de France, le bilan 2024 pour ces Bleus qui jouent leur dernier match donc ce soir contre l'Italie. Mais avant cela, le tennis, la finale du Masters que je vous annonce depuis tout à l'heure, eh bien elle est partie entre Sinner et Fritz. Eric Salio.
Oui, bonjour, c'est parti depuis quelques secondes effectivement ici à Turin, donc une affiche inédite entre Sinner et Taylor Fritz. Sinner qui a réalisé une semaine absolument époustouflante avec 4 victoires en 2-7 à chaque fois. Et ce qui est drôle, c'est que mardi dernier, il a battu Fritz dans le match de poule. Donc c'est un remake. Il faut savoir que c'est la 20e fois dans l'histoire des Masters que des joueurs qui se sont joués en poule se retrouvent en finale. Et il faut pas croire que c'est ascension unique, puisque 12 fois, celui qui avait perdu le match de poule a remporté le match qui compte plus finalement, puisqu'il y a la coupe au bout. Donc faut pas croire que Sinner va se trimballer. C'est un match qui a débuté depuis quelques secondes. C'est l'Américain qui a gagné le toss. Il est au service donc il y a 30 ans. Et puis pour la petite histoire, l'arbitre sur la chaise, c'est Carlos Bernardes, qui est très connu, c'est un Brésilien. C'est tout simplement le dernier match de sa carrière, puisqu'ensuite il va partir à la retraite.
Merci Eric Salio.
On peut quand même penser qu'il va gagner.
Ah oui, coach, pardon.
Non, je dis, on peut quand même penser que Sinner va gagner.
Ouais, Eric.
Même si ça ne se passe pas 100 fois sur 100.
Mais c'est pas la même pression qu'un match de poule, tu vois ce que je veux dire?
Oui, d'accord, mais bon,
je ne pas pour Sinner, moi.
Oui, il a mis des choses au Sinner.
Je ne pense pas que je suis le seul.
D'accord. Allez, on suit ça avec toi, Eric, à plus tard pour cette finale entre Sinner et Fritz. Et puis le rugby, ça a repris la deuxième période de Pays de Galles-Australie. C'est un test match, Roxane.
Oui, c'est reparti depuis 1 minute 30 entre le Pays de Galles et l'Australie. 19-13 pour les Australiens. Les Australiens qui deviennent des copains d'un carton jaune pour Semou Kerevi, le centre australien, à cause d'un plaquage haut sur un joueur gallois. Carton jaune bunker, donc on saura d'ici une dizaine de minutes avant qu'il revienne sur le terrain si ça se transforme en carton rouge ou pas. 41 minutes et 45 secondes, 13-19 pour l'Australie face au Pays de Galles.
Roxane Lacusca sur ce match, ce test match entre le Pays de Galles et l'Australie. Allez, on revient à l'équipe de France avec Jeannot Rességuier, Seb Piocelle et coach Courbis. On parlait du bilan de cette année 2024, on a beaucoup parlé chiffres et justement, Seb, tu parlais de ce désamour. Alors, on se demande toujours à partir d'où il vient ce désamour. Est-ce que c'est parce qu'on s'ennuie, qu'on ne les aime moins? Est-ce qu'ils sont fatigués aussi psychologiquement parce qu'ils sentent aussi autour d'eux qu'il n'y a pas cet engouement? Ça peut être une question, ça, Seb, ou pas? Quand on est moins aimé, on performe moins, hein, non?
Ouais, alors qu'ils soient fatigués, ça, je peux comprendre, que ce soit physiquement ou psychologiquement. On sait qu'on n'arrête pas de le répéter, qu'il y a énormément de matchs, de compétitions, puis ça va pas s'arrêter avec la Coupe du Monde des clubs.
Ouais.
Donc ça, je peux comprendre aussi. Après, ils ont toujours eu quand même du monde derrière eux. On l'a vu là pendant l'Euro, il y avait quand même des supporters bleus qui les suivaient. Après, non, je pense simplement que dans le contenu des matchs, dans le ce qu'ils peuvent faire ressentir en fait aux supporters, pourtant demi-finaliste, je le redis, c'est pas mauvais, on va dire, il y a pas mal de nations qui auraient aimé être dans le dernier carré, mais c'est plutôt l'état d'esprit, ce qu'ils proposent, en gros le fait de mettre le feu aussi un petit peu. Et on n'a pas cette fusion là, on n'a plus en tout cas cette fusion là. Alors est-ce que c'est parce que pour l'instant ils ont encore rien gagné, je sais pas
donc
trop,
mais... rejoins ce que j'étais en train de dire par rapport à cette nouvelle génération, par rapport à ses joueurs.
Oui, non, mais je suis d'accord, mais pas avec ce sélectionneur.
Ah oui, mais toi, t'as ancré le fait qu'il faut dégager Didier Deschamps, quoi.
Bah, dégager, c'est ton terme, mais passer à autre chose.
On revient au même, limoger, remercier, c'est comme tu veux. La finalité est la même.
Oui.
Mais il a un contrat jusqu'en 2026.
Non, mais ça, je sais, Jeannot.
Même s'il y a des élections le 14 décembre prochain, ou plutôt avant le 14, on aura les résultats, avec peut-être des modifications à la Fédé, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il est le sélectionneur de l'équipe de France. Qu'il essaye de se servir de cette Ligue des Nations que l'on peut tous décrier, il y a pas de souci, mais moi je préfère avoir des matchs de Ligue des Nations que des matchs amicaux de avec trois points de suspension où tu te retrouvais avec des adversaires où là la soirée était totalement barbante pour pas dire autre chose. Là aujourd'hui, tu te retrouves quand même avec une compétition, parce que c'est une compétition puisqu'il y a un trophée au bout qui t'amène des adversités intéressantes. Bon, ben voilà, aujourd'hui ça c'est l'Italie, tu clôtures avec l'Italie qui a quand même pas passé non plus une très belle année 2024, hein, ne l'oublions pas, hein. Ils ont été éliminés en huitième de finale du championnat d'Europe, mais qui avec Spalletti sont repartis sur de bonnes bases avec des jeunes et avec un système de jeu complètement différent de ce que prônait jusqu'alors Spalletti. Donc ça veut dire quelque part que un entraîneur, un sélectionneur, un technicien comme coach, on est capable de modifier sa façon de voir les choses.
Oui, mais il vient d'arriver, Spalletti.
Moi, je trouve que la compo d'équipe, juste pour finir de ce soir, dans le 4-2-3-1, avec les jeunes qui l'alignent, sans Kylian Mbappé, bah, cette composition d'équipe, elle est intéressante. Après, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra tout à l'heure, mais au moins, il essaye.
Oui.
Au moins, il tente.
Moi, la question, c'est pas de savoir ce que ça va donner. Moi aussi, j'ai envie de voir. Je préfère voir cette composition-là. C'est surtout de savoir si après, dans les matchs à enjeu, parce que même si c'est un match de gala et que allez potentiellement tu peux reprendre la première place, est-ce que dans les matchs à enjeu, il reviendra avec quatre joueurs offensifs. On l'a vu des fois en pleine compétition où dès l'instant où on sortait un peu des matchs de poule, ça y est, il fallait remettre le troisième joueur un peu plus défensif. Et voilà. Et pour revenir à Spalletti. C'est un entraîneur d'expérience qui se remet en question, mais ça fait pas longtemps qu'il est aussi avec l'équipe nationale.
On va en parler. Hein. On va en parler tout à l'heure du renouveau de cette équipe d'Italie qu'on affronte tout à l'heure, bien sûr, avec l'équipe de France.
Mais c'est
un
exemple.
Oui, exactement. C'est intéressant à suivre. Valentin qui est avec nous au 32-16. Salut Valentin, bienvenue dans l'Intégrale Foot.
Bonsoir à tous.
Salut Valentin.
Dis-nous toi ce que tu voulais dire sur ce niveau des Bleus, ce que tu en penses, l'attaque en particulier peut-être.
Bah, ce que j'en pense, c'est très 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 vague ce que j'en pense. Franchement, pourtant je suis vraiment un mordu de football, vraiment. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas pris mon pied, excusez-moi l'expression, mais avec un match de l'équipe de France.
Et ce nouveau
souffle. Depuis la finale du Qatar. Non. Ou allez, ouais. Les 20 dernières minutes de la finale du Qatar, pardon.
Voilà, je corrige. Même pas les 20 dernières, les 10 dernières.
Ouais. Allez avec la prolongation, ça fait un peu plus.
Ouais, avec les prolongations, ça va un peu plus. Je te l'accorde. Mais parce que je sais pas si c'est peut-être une lassitude depuis que Didier Deschamps est là. Donc c'est-à-dire après l'Euro en 2012 où j'ai envie peut-être de voir un nouveau coach en disant avec un nouveau coach, il y aura peut-être du renouveau au niveau du style de jeu parce que Didier Deschamps, on a toujours eu un peu prôné ce style de jeu-là. C'est on met un zéro, on tient un résultat un peu à la manière d'un épicier. On a un point, on garde notre point. Là, un peu pareil, on a un but d'avance. J'ai jamais eu ce plaisir devant les matchs de l'équipe de France, notamment contre les petites nations, quand on joue contre des petites nations qui sont en bloc très bas, très regroupés. On n'a jamais réussi, comme ce que sont capables de faire les Anglais, les Belges, les Espagnols, ou même des fois les Portugais, à mettre des vrais cartons contre ces équipes-là. On n'a jamais réussi ça sous l'ère Deschamps. Le seul match qui a eu cet
effet-là. C'est Gibraltar, la Moldavie.
Oui, voilà, c'est Gibraltar. Mais je veux dire, il y a des équipes, normalement, avec tout le respect que j'ai pour elles, hein, mais normalement, ça devrait être 4-5-0 facile. Mais ça, on n'a jamais fait ça sous l'ère Deschamps.
Mais on peut prendre l'exemple de Joachim Löw, par exemple, en Allemagne aussi, où il avait fait le mandat de trop. C'est-à-dire qu'il avait eu des super résultats et pourtant avec aussi du talent, il avait fait le mandat de trop, finalement il était parti et puis derrière il avait fallu un peu de temps pour reconstruire. Tu vas dire, Jeannot, que je m'acharne sur le sélectionneur.
Ah non, mais attends, je ne suis pas là pour le défendre.
Mais je pense que oui, nouvelle génération, de toute façon en France, des talents, il y en a toujours eu et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, peu importe qui devrait sélectionner, il y aurait le choix quelque part. Mais moi je parle surtout de fraîcheur, de fraîcheur du sélectionneur, le fait de aller de s'accrocher un peu aussi à ce poste-là. Et je pense que là, pour le coup, on doit revoir pas mal de choses.
Mais après, il s'est pas accroché, hein. Il y a eu des négociations. Au départ, c'était 2+2, puis finalement, ça finit par 4. Mais tu sais très bien que
quand il avait envie de partir, il pouvait partir.
Mais oui, mais bon, il avait pas envie parce qu'il avait peut-être pas le sentiment d'avoir terminé sa mission. N'oubliez pas non plus que Raymond Domenech, à une époque, tout le monde voulait qu'il s'en aille, et puis finalement, il est resté parce que Aimé Jacquet a levé le doigt, et que à cette époque-là, on parlait déjà de Didier Deschamps, mais que finalement, ça s'était pas fait. N'oublions pas l'histoire de l'équipe de France, parce qu'aujourd'hui, on est en train de se dire, ouais, c'est pas terrible, c'est pas extraordinaire, mais remonter en arrière avec l'époque de Raymond Domenech, où là, c'était catastrophique.
Ah, mais ça, on le sait, ça.
Et pourtant, on a eu une finale en 2006 de Coupe du Monde.
Bon, il faut garder l'espoir. Alors, au moins déjà pour ce soir, on va le garder l'espoir. Valentin, toi, tu le gardes l'espoir pour ce soir. Tu vas le regarder avec un regard.
Non, il va mettre les images et il va écouter la radio.
C'est exactement ce qui va se passer. Je vais mettre la radio parce que je serai au travail à ce moment-là. Moi, je travaille dans un hôtel. Donc, le match de jeudi, tout contexte gardé. Hein, match d'équipe de France, moi, je le regarde quand même. J'ai tenu honnêtement une mi-temps.
Pas mal déjà.
Bravo.
Ouais, franchement, bravo.
J'ai arrêté parce que j'ai dit.
Tu es vraiment passionné. Sincèrement, bravo. Hein.
Je supporte Angers. Je suis natif d'à côté d'Angers, mais maintenant moi je travaille sur Poitiers.
Ah, d'accord. Tu es préparé avec ton club chéri. D'accord.
Attention, coach. Cette année, on joue pas si mal que ça. Attention.
Ah oui, mais tu sais que quand on commence à être content en disant. C'est pas si mal que ça. C'est pas très positif.
Le jeu qu'on propose cette année, moi, me convient.
Ils sont lancés maintenant.
Finalement, je me retrouve en regardant cette équipe de France, je me retrouve mon score 2022-2023.
Merci Valentin, bon match ce soir et puis à très vite hein, évidemment Angers sur les antennes d'RMC. Merci beaucoup Valentin, merci à toi également Jeannot, bonne soirée, bon match.
Tu vas aller me mettre au chaud avant l'avant-match parce que là je vous garantis que on est en hiver, ça y est.
Ça pique.
Ça pique.
Allez, va te mettre au chaud. Merci Jeannot, bon match, salut, à tout à l'heure évidemment sur RMC pour nous commenter cette Italie-France. Un petit point sur les lives qui sont en cours avec la finale du Masters, Eric Salio entre Sinner et Fritz.
C'est assez équilibré hein, ce début de match entre deux joueurs. Peut-être qu'ils ressentent la tension d'une finale. Hein. C'est un gros titre. On dit que c'est le cinquième tournoi le plus important derrière les quatre grands chelems. Deux jeux partout entre Yannick Sinner et Taylor Fritz. Fritz qui est au service. Je vous rappelle qu'ils se sont joués mardi. C'est pour assurer Roland Courbis. Hein. Sinner s'était imposé 6-4, 6-4.
Coach, a priori, on va voir si ça se passe bien pour Sinner. Allez, tout va bien. Le test match entre le Pays de Galles et l'Australie, Roxane Lacusca.
49e minute et les Australiens qui mènent 26-13 après un énième essai inscrit par les Australiens. Le doublé pour Matthew Fessler, le talonneur. Les Gallois qui avaient été pénalisés après un déblayage jugé un peu dangereux de la part de Monsieur Cross par Ellis Bevan, le demi-mêlée gallois, sur Nick White, le demi-mêlée australien. Derrière, les Australiens ont choisi la touche. Ballon porté, et c'est donc le doublé par Matthew Fessler, 26-13 pour les Australiens. Et information importante, le Samu Kerevi, le centre australien qui a écopé d'un carton jaune tout à l'heure, le bunker a décidé que ce serait transformé en carton rouge, donc les Australiens joueront à 14 tout le reste de cette rencontre. 50e minute, 26-13 pour l'Australie face au Pays de Galles. Pardon.
Ça va resserrer un petit peu l'écart.
Allez, on va voir ce qui se passe dans ce test match. Merci Roxane. L'intégral foot revient bien sûr dans un instant, coach Courbis. Tu voulais nous parler de Christopher Nkunku. Donc on va parler de Christopher Nkunku avec votre avis partagé à toi coach et à toi Seb Piocel. À tout de suite dans l'intégral foot.
RMC Intégral Foot.
Marina Lorenzo.
Avec Seb Piocel et coach Courbis, on va parler dans un instant de Christopher Nkunku, son rôle ce soir dans ce dernier match de l'année 2024 pour les Bleus face à l'Italie. Mais avant cela, un point sur les événements en direct avec le rugby déjà. Avec toi, le Roxane Lacusca, Pays de Galles, Australie, ça a bougé.
Ça a bougé, nouvel essai pour les Australiens, 33-13 pour les Australiens face au Pays de Galles. On joue depuis 55 minutes et les Australiens qui sont pourtant réduits à 14 pendant encore 7 minutes. Vous savez, on teste le fameux carton rouge de 20 minutes. Donc les Australiens qui ont écopé d'un carton rouge sont en infériorité numérique pendant
20 minutes. Il en reste plus que 7. Et ensuite, ce sera un nouveau joueur qui entrera. Pas celui qui a copé du carton rouge, évidemment, mais un nouveau joueur. Donc voilà, ils seront à 15 dans 7 minutes. Mais pour l'instant, ça leur convient plutôt bien puisqu'ils viennent de marquer 2 essais sous infériorité numérique. 33 à 13 pour les Australiens face au Pays de Galles. 55 minutes de jeu.
Le tennis avec toi, Eric Salio. C'est la finale du Masters entre Yannick Sinner et Florian Fritz.
Et pour l'instant, les serveurs remportent leur mise en jeu assez facilement. Il y a 3 jeux à 2 pour Taylor Fritz. C'est Yannick Sinner qui est au service. Il mène 45, donc en principe, ça devrait faire 3 partout. Puis j'ai aussi un œil à ce qui se passe à Cali, en Colombie, puisqu'on sait que l'équipe de France féminine joue un barrage important pour tenter de se maintenir dans le groupe mondial. Il y avait un partout hier. Et attention, il y a danger, puisque Varvara Grachava, qui a remplacé Diane Paris, est menée 6-2, 5-4 par la numéro 1 colombienne. Ça sent le piège, ce match à 2600 mètres d'altitude.
Un multi-écran, Eric, alors, pour nous donner toutes les infos tennis de la soirée. À tout à l'heure, Eric. L'intégral foot avec ce débat sur l'équipe de France avant ce dernier match de l'année, Italie-France, ce soir. Et puis ce joueur qu'on a évoqué, alors coach Courbis, depuis une heure et demie, on l'a cité plusieurs fois, évidemment, parce qu'on attend beaucoup de lui ce soir, Christopher Nkunku. Bah, pour toi, il doit être le leader d'attaque, tout simplement. Coach.
Pardon. Ah non, mais je savais pas que tu t'adressais à moi.
Oui, pardon, excuse-moi. Si, Christopher Nkunku, c'est quoi ton propos sur Christopher Nkunku? Dis-nous ce que tu attends de lui.
Ben, tout simplement que depuis la surprise, qui est une désagréable surprise, de l'arrêt de Griezmann, ben il est logique tout de suite qu'on puisse se dire ben qui c'est qui va le remplacer. Alors peut-être aussi qu'on va changer l'organisation, peut-être les deux, mais c'est vrai que Nkunku pour moi ben revient logiquement dans le joueur qu'on peut penser dans un rôle de ben, numéro 10, meneur de jeu, le gars capable de faire des dernières passes, des passes décisives, des avant-dernières passes et tout, créer quelque chose, et aussi marquer de temps en temps. Ben, Akiyush, ok, mais pour le moment, ben, il fait ses preuves, ce qui est très bien avec les espoirs. On peut penser à ces deux joueurs, et aussi à une autre organisation, c'est-à-dire celle de ce soir. Donc c'est pour ça que je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. Et en plus de ça, pour Nkunku, ben l'adversaire, c'est quand même un adversaire redoutable. L'Italie que nous avons là depuis quelques semaines à San Siro, ben c'est pas évident du tout. Donc si tu arrives à t'en sortir et à faire des preuves dans ce contexte-là, ben, on appelle ça marquer des points. Il va marquer des points. On va regarder cette éventualité en souhaitant, évidemment, qu'il marque beaucoup de points parce qu'on a besoin d'un joueur de ce niveau-là et de ce profil-là.
Seb.
Non, bah moi je suis plutôt de l'avis de coach. Alors c'est vrai qu'Nkunku il a pas eu de chance avec les blessures, hein. Il a été beaucoup freiné dans sa progression. Ah oui. Il a une formation aussi plutôt de milieu offensif, donc ça peut correspondre à un rôle un peu comme ça derrière l'attaquant. Quand l'équipe de France a le ballon, quand ça peut se projeter, il peut aussi faire office de deuxième attaquant. Et puis c'est vrai que Griezmann étant à la retraite, alors bien sûr c'est un profil complètement différent, peut-être un peu moins fin, mais plutôt percutant, facile aussi pour se retourner, aller fixer, créer des déséquilibres plutôt dans l'axe, parce qu'on a déjà d'autres joueurs comme Barcola ou Dembélé ou Coman qui sont efficaces dans les couloirs. Et c'est vrai que si on veut voir une équipe de France un peu plus offensive dans l'animation avec le ballon, il a vraiment un vrai coup à jouer. Après, il faudra aussi à un moment donné se poser la question de Chelsea où il est remplaçant, il joue, il a pas beaucoup de temps de jeu, mais il a un profil vraiment atypique. Et il peut même dès ce soir face à une belle équipe d'Italie marquer des points pour la suite dans ce positionnement notamment, et c'est quand même un joueur aussi polyvalent, donc dans un groupe aussi France, c'est toujours intéressant d'avoir ce profil là.
Ouais, bah je vous sens dithyrambique tous les deux, il va apporter quelque chose de nouveau, Christopher Nkunku, coach.
Ben on l'espère, et dans le sens que en plus de ça, Ben on l'a dit, je le répète, je le re-répète, il y a aussi le changement de joueurs par rapport au dernier match et le changement d'organisation. Un 4-2-3-1, quand on sait qu'il y a cette ligne de 3 de ce soir et que sur le banc, il y a quand même deux copains qui s'appellent Barcola et Dembélé, c'est sûr que notre ami belge, il pense qu'on est des enfants gâtés. Mais que Nkunku, qui puisse, si tu veux, et tu as vu que j'ai gardé Mbappé pour la fin, mais qui puisse, si tu veux, marquer des points pour que la nouvelle organisation de Didier Deschamps ce soit un 4-2-3-1 avec un Mbappé qui peut jouer en retrait d'un Thuram et des joueurs sur les côtés dont Nkunku qui en même temps peuvent travailler défensivement par rapport aux soucis que Didier peut avoir toujours d'avoir une équipe solide avec un milieu qui travaille. Et ça, cette équipe de France là, je la trouverai tout simplement redoutable. Ce que je vais regarder ce soir en tant que passionné, mais vous aussi vous l'êtes autant que moi, ben c'est nos demi-œufs, hein, puisque il y en a 5 demi-œufs, il y a la ligne de 2, il y a la ligne de 3, ce qui fait 5, mais les deux milieux devant notre défense. Ben il faudrait quand même que Rabiot, qui a peut-être été un petit peu en retard dans son début de saison, qui est arrivé à l'OM au dernier moment, et Koné, qui a fait quand même un match très intéressant il y a quelques semaines de ça, bah, il faudrait qu'ils marquent des points eux aussi, parce que si eux font un grand match, la ligne de 3 devant eux, qui est une ligne qui se replace, qui travaille pour poser des problèmes à cette équipe d'Italie et d'essayer de gagner cette importante et toujours intéressante bataille du milieu. Moi, je vais regarder aussi Nkunku, bien évidemment, parce que c'est de lui qu'on parle, mais les deux là derrière Nkunku.
Eh ben voilà, ben écoute, voilà. On va voir ce que ça donne. En tout cas, après cet avis sur Christopher Nkunku, on va regarder ça évidemment. Est-ce qu'il en est ce soir? Dans un instant, on va parler de l'Italie. Comment expliquer le renouveau de l'Italie? On l'a un peu évoqué tout à l'heure avec Jeannot, la pâte Spalletti. Mais avant cela, on va marquer une petite pause après avoir fait le point sur le rugby et le tennis. Le rugby avec toi, Roxane Lacusca. C'est France Pays de Galles, Australie.
Pays de Galles, Australie, oui. 59e minute. Les Australiens qui mènent 33-13. Sur la pelouse du Principality Stadium. Touche à suivre pour les Gallois à 5 mètres de l'embut australien. 33-13 donc pour les Australiens qui sont pour l'instant réduits à 14. Encore 2 minutes dans ce carton rouge qui dure une vingtaine de minutes, 20 minutes même plus précisément. Et voilà, dans 2 minutes, un nouveau joueur pourra entrer et les Australiens seront de nouveau à 15.
Merci Roxane. Eric Salio.
J'aime bien ce nouveau règlement.
Je savais que ça te plairait, Coche.
Ben ouais, mais une fois de plus, je constate que
c'est pas le même joueur qui peut re-rentrer, Roxane.
Non, ça sera pas le même joueur, ça sera un autre joueur.
D'accord. Voilà. Donc, ben, si tu veux, bon, ça a été rajouté. Mais voir que dans nos amis du rugby, le règlement pour justement, est-ce qu'on pourrait appeler nous le carton orange, mais que nous, on a toujours du retard, sincèrement, ça me fout les boules.
Bon, bah voilà, le petit coup de gueule de coach Courbis. C'est Eric Salio pour le tennis. Tina Fritz, c'est la finale du Masters.
Ouais, 3 jeux partout entre l'Italien et l'Américain, mais croyez-moi, l'Américain il souffre depuis quelques minutes, il est au service. Ah, ça fait 7 minutes qu'il galère sur ce 7e jeu. Sinner a eu 3 balles de break, mais Fritz les a remarquablement effacés.
On n'est pas en poule, ma poupoule.
On est pas poupoule.
Et coach Courbis est ravi. Allez, une petite page de pub dans l'intégral foot et on revient pour parler donc de cet adversaire que la France va défier ce soir, l'Italie. Ligue des Nations, c'est l'intégral foot. À tout de suite.
RMC, Intégral Foot. Marina Lorenzo.
Toujours avec Seb Piocel et avec coach Courbis et avec ses deux lives, notamment le rugby qui est en cours, ce test match entre le Pays de Galles et l'Australie. Roxane Lacusca, l'Australie toujours devant.
L'Australie toujours devant et même un 6e essai inscrit par les Australiens à l'instant à la 60e minute. Ça fait 40-13 pour les Australiens. Et c'est inscrit par Tom Wright, une interception de la passe de Costello, le Gallois qui s'est fait intercepter. Et ensuite Tom Wright qui est allé tout seul inscrit
inscrire donc ce sixième essai de la rencontre, le troisième en infériorité numérique pour les Australiens qui avaient écopé d'un carton rouge de 20 minutes. Et à la place du carton rouge, c'est Swahili, je galère un petit peu à le prononcer. C'est la jeune pépite du rugby australien qui joue seulement son deuxième match professionnel à 15 ce soir. Il avait joué contre l'Angleterre son premier match la semaine dernière. Voilà, donc on va le suivre de très près. Les Australiens, en tout cas, qui mènent 40 à 13 sur la pelouse du Principality Stadium face au Pays de Galles. On joue depuis 64 minutes.
Et il y a également le tennis que Coach Urbis qui est avec nous suit attentivement également. Eric Salio, c'est toi qui nous commande ça, la finale du Masters Sinner Fritz.
Il va mieux le coach là. Hein. 5-3 pour Yannick Sinner qui est parvenu à breaker tout à l'heure à l'issue d'un jeu très long.
Quelle surprise.
On voit qu'il a vraiment une emprise phénoménale sur tous ses adversaires en cette fin de saison, et donc italien donc qui est bien parti pour remporter cette première manche. Un mot sur le barrage de Fed Cup, enfin de Billie Jean King Cup pardon. C'est malheureusement mauvaise nouvelle. Varvara Gracheva vient de perdre le match 3 face à la numéro 1 colombienne. Ça veut dire que les Françaises sont au bord du gouffre puisqu'elles sont désormais menées 2-1. Il va falloir gagner le match 4 et éventuellement le double derrière. Ça se déroule à 2600 mètres d'altitude. Là, on est en train de prendre l'eau.
Ah oui. Effectivement, merci beaucoup Eric Salio. La suite du tennis et du rugby avec vous bien sûr Eric et Roxane pour le test match. On revient au football avec ce match Italie-France qui nous attend donc ce soir bien sûr, dernier match de cette année 2024, c'est de la Ligue des Nations et on accueille le spécialiste du foot italien sur RMC, c'est Yoann Crochet bien sûr qui est avec nous, salut Yoann.
Bonjour à toutes et à tous.
Avec cette question, c'est vrai qu'on en parlait rapidement tout à l'heure avec Jeannot, le renouveau de cette équipe d'Italie qu'on constate quand même depuis plusieurs semaines. Comment on l'explique ? Comment tu nous l'expliques, toi, Yoann ?
Alors, c'est assez simple. En tout cas, on croit les principaux acteurs de ce renouveau-là. Alors, je sais pas si on doit l'appeler renouveau, rebond, je sais pas quel terme on doit utiliser, mais parce qu'il n'y a pas eu de changement énorme dans cette nationale, et il y a évidemment quelques joueurs qui sont arrivés, mais on n'est pas sur des cracks qui ont changé complètement la façon de jouer de l'équipe. On n'a pas forcément des joueurs qui se sont ultérieurement révélé. Il y a quelques joueurs, Ricci, qui avait fait une très bonne impression en France, par exemple, lors du match au Parc des Princes. Mais c'est surtout, selon notamment Luciano Spalletti, le sélectionneur, il a admis que lui, il avait fait plein d'erreurs pendant l'Euro, notamment sur mettre beaucoup trop de pression à ses joueurs et des joueurs qui avaient un peu perdu le sourire de s'entraîner et cette espèce de légèreté avant d'aborder les matchs. Et on avait des joueurs qui étaient totalement plombés mentalement et qui sont totalement passés à côté. Donc là, il a dit, moi, j'ai changé mon management. On écoutait Donnarumma hier en conférence de presse qui nous expliquait que là, bizarrement, depuis quelques semaines, il retrouvait un peu le groupe qui avait gagné l'Euro 2020 joué en 2021. Donc un groupe beaucoup plus léger, beaucoup plus soudé, beaucoup plus dans des relations humaines un peu plus profondes et un peu moins distantes chacun vis-à-vis de son partenaire. Donc c'est comme ça qu'on peut l'expliquer.
Oui, quand même. Donc, là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de Didier Deschamps. Est-ce qu'il se remet en question? Là, on a l'exemple d'un sélectionneur. Il y a eu un échec, il y a eu une grosse remise en question générale. Et il parle beaucoup du mental, ça, c'est important.
Yoann, c'est que sur l'aspect psychologique, il n'y a pas au niveau technico-tactique, le système, l'animation.
Si, il peut y avoir quelques petites choses. L'élément global, ça a été cette espèce de remise en question et ce changement de gestion avec des joueurs un peu plus libres et un peu moins sous le poids des responsabilités que voulait donner Luciano Spalletti à l'Euro. Tactiquement, il y a aussi eu la mise en place claire, même si on l'avait eu parfois à l'Euro, d'une défense à 3 et d'un 3-5-2 ou 3-5-1-1, ça dépend un petit peu des joueurs présents, qui s'y a pas mal de joueurs parce que, mine de rien, en Italie, ce schéma-là est utilisé par beaucoup de clubs et de clubs majeurs notamment, l'Inter et l'Atalanta, dont ils sont issus plusieurs joueurs, même si côté Atalanta, il y en a plusieurs qui sont blessés. Mais c'est vraiment défense à 3 avec un milieu de terrain très technique, ça n'a jamais été le problème. L'installation claire de Retegui en tant que numéro 9. Oui. Et puis, après, au milieu de terrain, on a cette grande qualité technique qu'on ne voyait pas du tout à l'Euro parce que les joueurs étaient submergés, parce qu'ils perdaient beaucoup de ballons, parce qu'ils réussissaient à peu près rien, aucune sortie de balle, bref, il n'y avait strictement rien. Et là, on retrouve quand même une vraie personnalité, des Barella, alors Tonali n'était pas à l'Euro, donc ça fait partie des gros joueurs, c'est quasiment le seul gros joueur qui n'était pas à l'Euro, mais des Barella, des Ricci, des Fratesi, on retrouve quand même cette qualité technique importante.
Et puis une grosse animation des couloirs aussi.
En ce qui concerne l'Italie, tu as peut-être plus de facilité que moi pour nous rappeler, l'équipe d'Italie qui va démarrer ce soir par rapport à l'équipe d'Italie qui a démarré lors de la victoire de l'Italie contre la France, il y a qui et combien de changements?
Alors, il y a plusieurs changements. Par exemple, Lorenzo Pellegrini, qui était titulaire derrière Retegui lors du, je l'appelais le match aller pour faire plus simple, n'est pas là. Dans la ligne des milieux de terrain, Ricci, qui s'est blessé lors du derby de Turin avant la sélection, n'est pas là au poste de numéro 6. Et ça devrait être Manuel Locatelli de la Juve. Et, défensivement.
Qui est pas mal non plus.
Oui, qui est plutôt pas mal. Et défensivement, enfin, sur la ligne de 3 arrière, il y a un seul changement, puisque Calafiori s'est blessé assez sérieusement avec Arsenal, il ne peut pas être sur ce rassemblement-là. Et donc, c'est Buongiorno, le défenseur du Napoli, qui est là. Donc, en gros, pour faire simple, il y a trois changements sur ce match-là.
Trois changements, une équipe apparemment assez sereine, mais quand même, ce match ce soir face à la France, ça s'imposait, ce serait une manière vraiment de réaffirmer quoi, ce renouveau, ce rebond, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Mais il y a eu cette première victoire, effectivement, au match aller, comme tu dis. Là, s'il s'impose encore ce soir, ça validerait complètement cette nouvelle méthode Spalletti, non?
Ouais, exactement. Et puis Spalletti, lui, alors il parle pas spécialement de résultats en tant que tel. Lui, il veut continuer dans le chemin qu'ils ont entrepris de la qualité de jeu et de la construction d'un effectif et d'une identité de jeu. Ouais. Il a vraiment insisté sur ça. C'était il y a deux jours en conférence de presse, pas la dernière conférence de presse, mais celle d'avant, où il avait expliqué, nous évidemment que on a envie de gagner. Ça c'est la base. Qu'on a envie aussi de faire plaisir à Toussaint Thiero, qui sera complet, hein, 68 000 billets vendus, donc à guichet fermé. Il a parlé de deux choses, c'est cette volonté justement de continuer ce processus de développement d'une qualité de jeu, d'une mémoire collective entre les différents éléments de ce groupe-là, qui est très important. Et l'autre, c'est le côté qui a tant fait jaser en Italie, parce que même s'il y a eu des difficultés technico-tactiques pendant l'Euro, il y avait aussi un manque de volume de jeu, d'intensité, de course, de caractère, de personnalité. Il a beaucoup reparlé de ce caractère, de cette personnalité, de représenter correctement et dignement le maillot de la sélection italienne.
Bon. C'est ce qui revenait, hein, ça, surtout pendant l'Euro, quand on commentait, là, c'était vraiment le manque de personnalité, alors que, en général, l'Italie, on les connaît aussi pour ça, et c'est vrai qu'on était assez surpris de les voir se déstructurer aussi facilement, pendant l'Euro. Et puis après, moi, j'insiste aussi beaucoup, comme tu disais, Johan, il y a beaucoup de gros clubs qui jouent avec une défense à 3 ou à 5, et je trouve que l'animation des couloirs aussi, c'est vraiment une grosse force de cette équipe d'Italie.
Ouais, exactement. J'ai oublié le Napoli, hein, dans ceux qui jouent parfois avec une défense à 3, parfois avec une défense à 4. Ça dépend du système de Conte selon les adversaires. Mais oui, c'est les latéraux, c'est une des grosses qualités. Il y a pas mal de monde, parce que un joueur comme Udoji, par exemple, qui est régulièrement titulaire avec Tottenham, est sur le banc parce que Di Marco est tellement au-dessus côté gauche qu'il y a pas trop de débat. Cambiaso à droite est un joueur très très intéressant, mais c'est vraiment pas le même type de joueur que Di Marco, qui est vraiment tonique, très puissant, grosse qualité de pied, qui va faire beaucoup 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 de débordements sur son côté et arroser pas mal en centre, parce qu'il a vraiment une qualité de pied très intéressante. Cambiaso, c'est plus presque un milieu de terrain ajouté, un joueur qui est quasiment ambidextre, qui est très intelligent, très soucieux dans le placement, de toujours être dans les bons espaces, qui trouve des lignes de passe, des renversements de jeu. Donc ça fait partie, souvenez-vous du match en France, souvenez-vous aussi du match, si vous l'avez vu, contre la Belgique, aller-retour, le premier match contre la Belgique à Rome, avant l'expulsion de Pellegrini, pendant les 40 premières minutes, les renversements de jeu entre Di Marco et Cambiaso, c'était absolument superbe. Donc ça fait partie effectivement des grandes forces de cette nationale.
Léon. Bon, tu nous as pas du tout rassuré, Johan, pour ce soir, merci.
il va valoir
le coup, ce match, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Johan, en tout cas, merci. Pour toutes ces infos, ces précisions. Salut, sur cette squadra Azzurra, le renouveau, et donc qui va affronter la France tout à l'heure. Un grand merci, Seb. À la semaine prochaine.
Pour
l'intégral foot, évidemment. Ce sera à 17h. On retrouvera le live de la Ligue 1. Un grand merci, coach Courbis, également. À très vite.
Salut.
Bonne fin de journée du côté de Montpellier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et juste derrière la pub, c'est Bartoli Time. Marion Bartoli,
oui.
Benoît Boutron. Tu es là, Marion.
À nouveau, après les GG ce matin, nous sommes là.
Bien sûr qu'on est là.
Un gros programme.
Et
énorme,
en
attention.
Programme exceptionnel.
Ça va envoyer.
Romain Muros, l'arrière du 15 de France, ouais. Le lendemain de France All Black.
C'est pas mal.
Ça, c'est pas mal.
C'est pas mal.
En ouverture, dans un instant, avec Wilfried Templier. Alex Correia, légende espagnole du tennis, pour parler de la Semaine Sainte qui arrive en Espagne. Les adieux de Rafa Nadal.
On se parle
à 19h25.
Un
bon débat qui va vous intéresser, vous les fans de foot. Bartoli Baston à 19h45. Est-ce que les bleus du foot doivent s'inspirer des bleus du rugby?
C'est une bonne question.
Elle est bonne, la question.
C'est une bonne question. Et peut-être des Italiens aussi. Allez, salut, bonne émission. Ciao.
Et on arrive dans un instant.
RMC, 19h20. Bartoli Time.